BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business, Guillaume Paul.
18h, il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. Alors c'est censé être la dernière séance de négociation entre les partenaires sociaux sur le dossier de l'emploi des seniors. Bah oui, sauf que cette négociation, elle a débuté hier matin à 9h et on y est toujours ce soir. On va voir ça avec Caroline Morisseau dans un instant, puis on en parlera dans 10 minutes avec le patron de la CFE-CGC, François Omri, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon sur BFM Business. On va reparler aussi beaucoup d'Atos ce soir parce que ça y est, le groupe a présenté ce matin un plan de refinancement. Et aussi parce que l'État, ça se confirme, va se mêler l'histoire pour sécuriser, vous savez, toutes les activités ultra sensibles d'Atos. On verra ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. On parlera tous avec nos experts qui arrivent bien sûr dès 18h30. Et puis avec eux, on parlera aussi de la colère des maires qui l'ont dit ce matin à Bercy. Pas question qu'on vienne nous demander des comptes, qu'on vienne nous réclamer des milliards, ces fameux milliards que le gouvernement cherche toujours bien sûr à récolter. Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble bien sûr jusqu'à 20h. Bonne soirée.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Good evening business, le journal.
Donc, ça n'est toujours pas terminé ce soir. Bonsoir, Caroline Morisseau.
Bonsoir.
Donc, les partenaires sociaux qui ont commencé à discuter hier matin pour conclure sur l'emploi des seniors, il y a eu des interruptions, des pauses. Mais on y est toujours ce soir. Qu'est-ce qui bloque exactement?
Tout bloque, à peu près tout bloque en fait. Les syndicats dénoncent toujours un accord totalement déséquilibré avec plus de droits pour les employeurs et rien pour les salariés. En fait, les organisations patronales campent sur une position très ferme. Elles refusent de lâcher quoi que ce soit. Elles s'obstinent toujours à vouloir mettre en place, vous savez, leur fameux CDI senior, ouais, qui a été rebaptisé, qui ne sera qu'à titre expérimental pour 5 ans, mais qui repose toujours sur le même principe. C'est un contrat qui leur permettrait d'employer un demandeur d'emploi de plus de 60 ans, mais de s'en séparer une fois sa retraite à taux plein atteinte, ce qui est une ligne rouge pour les syndicats. Derrière autre sujet qui fâche les syndicats, le patronat exige qu'un salarié qui a fait une reconversion professionnelle soit dans l'obligation de démissionner de l'entreprise à l'issue de sa formation. Ça aussi, c'est un problème pour les syndicats. Et derrière, en face, les syndicats n'arrivent pas à obtenir de contrepartie, n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit. Il n'y a à ce stade pas une seule de leurs 10 propositions communes qui a été retenue dans l'accord. Du coup, le ton monte, évidemment. Les syndicats sont de plus en plus énervés. Certains commencent même à se demander si finalement le patronat veut vraiment aller au bout de cette négociation ou s'il n'est pas en train de refuser, en fait, de ne pas assumer l'échec de cette négociation et qu'il ne pousse pas les syndicats à claquer la porte et à aller au clash. Là, on vient d'avoir une très longue interruption. Le patronat a un peu revu sa copie, vient de la transmettre au syndicat. Donc, on va voir si dans les heures à venir, la situation se débloque.
Ça peut encore durer quelques heures.
Ça peut encore durer jusqu'à tard dans la nuit.
Et bon, on suivra ça en tout cas ce soir, demain matin sur BFM Business. Merci beaucoup Caroline Morisseau avec nous ce soir dans Good Evening. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, il y a le dossier Atos. Les choses se précipitent depuis 48 heures. C'est que le groupe a dévoilé donc ce matin son plan de refinancement qui prévoit de réduire de moitié la dette. Dette qui est aujourd'hui de près de 5 milliards d'euros. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
L'autre confirmation, c'est que l'État va bien intervenir pour essayer de sécuriser ce qu'on appelle les activités sensibles. C'est ça, Mathieu, finalement.
Oui, exactement. Vous savez, ces activités de cybersécurité et les supercalculateurs qui sont logés chez Atos, où il y a des contrats avec le ministère des Armées, également avec le commissariat à l'énergie atomique pour la dissuasion nucléaire, les commandes, par exemple, des centrales nucléaires. Bref, des activités, effectivement, très sensible et l'État s'est octroyé, ou en tout cas négocié, mais s'est octroyé avec Atos, ce qu'on appelle une action de préférence dans cette filiale qui est toujours logée dans la société qui est toujours appelée Bull aujourd'hui, qui avait été rachetée il y a une dizaine d'années. Et cette action de préférence, c'est effectivement une seule petite action de cette société Bull, mais qui donne des droits spécifiques à l'État. L'État, on a déjà dans beaucoup de groupes de défense, comme Safran, comme Airbus, comme Thales, où il y a aussi des activités très sensibles, et cette action de préférence va lui donner des droits spécifiques en matière de gouvernance, sur un représentant de l'État au sein de la filiale française de Bull, qui aura du coup accès à l'information de cette société, donc sur les contrats, pour préserver les contrats notamment avec les entités publiques et sur les activités sensibles. Et puis il y aura également des droits de vote, peut-être, en tout cas Atos dit qu'ils ne sont pas encore négociés, mais des droits de vote au sein de ce conseil pour l'État, qui donc aura un pied certain dans ses activités. Et l'État a même négocié avec Atos un droit de préemption sur cette activité, ce qui veut dire que si demain, pendant ou après la restructuration d'Atos, un nouvel actionnaire, on va dire dérangeant pour l'État, oui, prenait ne serait-ce que 10% du capital d'Atos, l'État peut lever cette option et donc racheter de force cette activité de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Donc c'est très important. Ce ne sont que des mesures mises en place. Il n'y a rien de fait aujourd'hui. Ouais. Mais en tout cas, l'État se laisse la possibilité de reprendre en main ses activités.
L'État qui monte au créneau, mais il avait prévenu il y a de ça quelques semaines qu'une solution
individuelle serait
trouvée. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure un petit peu à votre 18h30. On prendra un peu plus de temps pour évoquer les nouvelles du front, bien sûr, sur ce dossier Atos qui nous tient en haleine. Et ça n'est pas fini, visiblement. Pendant ce temps, l'État continue ses consultations pour essayer de trouver de nouvelles économies. Ce matin, il y avait une grosse réunion à Bercy pour évoquer des pistes avec les élus locaux. Et les maires l'ont dit très clairement, c'est pas de leur côté qu'il faut chercher de l'argent. Écoutez, André Léniel, c'est le vice-président de l'Association des maires de France.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner. Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout. Vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards, et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains, ils sont en grave difficulté. Donc le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc, si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Voilà les propos très crus ce matin d'André Léniel, le vice-président de l'Association des maires de France. Dans l'actualité ce soir, Bruxelles qui accélère contre la Chine. On vous racontait avant le week-end qu'une enquête anti-subvention avait été ouverte contre les géants chinois du photovoltaïque. Bah aujourd'hui, c'est une enquête contre les gros fabricants chinois d'éoliennes qui a été dégainée par la Commission européenne. En France, dans l'immobilier ancien, on a eu la confirmation que les prix ont continué de baisser au premier trimestre, moins 3,2% sur un an au niveau national. C'est le chiffre que nous donnait ce matin le patron de Century France sur BFM Business. Orpi a donné un chiffre assez similaire ce matin, moins 3%. Le réseau La Forêt, lui, note une baisse de 4,7%. En France, toujours, il y a eu des perquisitions aujourd'hui sur plusieurs sites des groupes chimiques Arkema et Daikin. Perquisition dans le cadre d'une enquête sur de possibles contaminations au PFAS. Vous savez, ces polluants éternels dont on vous a beaucoup parlé la semaine dernière sur BFM Business. Et puis, c'est un groupe dont beaucoup disaient qu'il avait bénéficié d'un gros effet Covid, mais que plus dur serait la chute. Le labo Biomérieux vient de présenter un plan stratégique très ambitieux sur 5 ans. Le Lyonnais, en fait, n'a pas fait qu'engranger pendant le Covid. Il a aussi clairement préparé l'avenir. Hélène Cornet.
Biomérieux fait mentir tous ceux qui lui promettaient un retour sur Terre difficile. Le groupe se porte même mieux qu'avant la crise sanitaire, avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à 2019. Le Covid a développé de nouveaux réflexes. Les tests sont devenus une aide complémentaire, voire indispensable au diagnostic, que ce soit dans les maladies respiratoires ou les maladies infectieuses. Le laboratoire lyonnais développe également des tests pour les fièvres tropicales ou contre l'antibiorésistance. Mais le plus prometteur pour Biomérieux, c'est sa nouvelle technologie baptisée Spotfire, lancée l'été dernier. C'est un outil nomade qu'on peut installer dans les hôpitaux ou les cabinets de médecins pour détecter soi-même les virus en 15 minutes sans l'aide d'un laboratoire. En France, c'est très compliqué de l'installer pour des raisons réglementaires, mais le dispositif séduit à l'international. De quoi permettre au groupe de fixer pour la première fois une trajectoire financière sur plusieurs années.
Voilà les nouvelles ambitions de Biomérieux. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 18h08, on va sur les marchés. Étienne Brac, Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, CAC 40 en baisse ce mardi soir.
Bonsoir. En effet, nette baisse pour le CAC 40 après avoir progressé de 0,7% hier. Marche arrière, moins 0,86% ce soir à la clôture à 8049 points. Du rouge également à Wall Street avec des marchés qui sont en pleine hésitation à l'approche des résultats trimestriels. Ça commencera vendredi aux États-Unis avec les banques, puis mardi à Paris avec LVMH. Vous avez le secteur du luxe qui est en baisse. Pas mal d'analystes qui s'attendent à des ventes stables avec notamment un ralentissement des ventes en Chine. Donc suite à cela, vous avez Hermès qui perd 2,4% à 2282 euros, LVMH moins 1,5%, et puis hors CAC 40, le gadin du jour c'est Atos. Alors hier le titre avait certes pris 20%, et bien aujourd'hui il perd 13% avec le groupe qui souhaite une augmentation de capital de plus d'1 milliard d'euros, sachant que en bourse la valorisation boursière est de moins de 300 millions d'euros, donc ça s'avère sûrement très dilutif dans les semaines à venir. 1,99€ pour cette valeur qui est sur des plus bas historiques. Et puis à l'inverse, une autre valeur qui a connu un parcours compliqué mais qui se reprend, c'est Alstom qui prend plus de 7% à 14,85€. Et donc la Bourse de Paris qui clôture en baisse ce soir, moins 0,86% à 8049 points avant l'inflation américaine demain.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street justement à la mi-séance. L'indice Dow Jones qui perd 0,33%, 38764 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui recule de 0,17%, 16225, 18h10. Le président de la CFE-CGC, François Omeril, est l'invité d'Eddy Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Eddy Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois François Omeril, le président de la CFE-CGC. Vous savez, pendant que nous parlons, les partenaires sociaux sont en train de discuter, d'essayer de trouver un accord. Bonsoir François Omeril.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous parce que c'est assez chaud. Vous avez même gardé votre portable devant vous. Vous allez peut-être pouvoir nous donner des indications parce que les négociations viennent à peine de reprendre. Déjà hier soir, je titrais la négociation de la dernière chance. On avait le sentiment que ça y était. Finalement, ça y était pas. Reprise des négociations à 10h, interruption de séance, renégociation depuis cet après-midi. Et maintenant, vous nous dites quoi, François Omeril?
Je dirais que la fumée est bien grise en ce moment. Moi, la dernière info que j'ai, je vous la donne en direct, c'est qu'on va plutôt vers un échec. Alors évidemment, il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute. Mais la partie patronale a fait une suspension de séance de 4h30 pour revenir finalement avec des modifications de forme. Et on est sur cette problématique quasiment depuis le début. C'est-à-dire que c'est une négociation qui reste très déséquilibrée, dans laquelle finalement on observe que la tension, le cadre, il a été déterminé par la réforme des retraites, donc 2 ans de travail supplémentaire, et au final une négociation pour essayer d'aménager les conditions dans lesquelles, je parle de la partie travail des seniors, oui. Qui par ailleurs a aussi des conséquences sur les autres parties. On essaye de travailler, de réfléchir aux moyens d'aménager ces 2 années supplémentaires, voire au-delà, c'est-à-dire les années précédentes, et finalement pour les salariés, on ne voit rien venir, que des éléments de processus et des formes.
Donc là, vous nous dites globalement, on va vers un échec. Est-ce que les autres partenaires sociaux sont sur la même ligne que vous? Parce qu'on sait que vous êtes très offensif, François Omeril, c'est ce qui fait du reste le succès de la CFE-CGC en ce moment. Est-ce que les autres partenaires sont sur cette ligne-là?
Oui, moi c'est ce que j'ai compris. Alors bien sûr, je n'ai pas autorité pour parler à leur place, mais on voit bien, chacun fait son petit briefing le soir et regarde quelle est la tendance. Oui, je pense qu'on est tous très déçus du manque d'ambition qu'il y a dans cette négociation. Il faut dire qu'on n'est pas aidé par le cadre, on n'est pas aidé par le gouvernement, par les positions qu'il a prises, par la façon dont il est intervenu un peu comme un chien dans un jeu de quilles au moment de la négociation. On n'est pas aidé par le fait que depuis plusieurs années, j'ai pas de problème pour le redire, le patronat, il a un peu perdu la clé du champ de tir de la négociation. Voilà, il a perdu l'habitude.
On avait le sentiment qu'il l'avait retrouvé,
oui.
Justement. Et puis là, est-ce que c'est le nouveau... C'est Patrick Martin, le nouveau président du MEDEF, qui a cette position très dure? En tous les cas, très dur à vos yeux, aux yeux des syndicats. Ce soir, vous ne comprenez pas tellement... dites-le nous, vous ne comprenez
non,
pas tellement la stratégie du patronat.
Moi, je ne veux pas faire de reproches personnels à Patrick Martin ou à d'autres représentants, à François Asselin pour la CPME. Je pense qu'on a une problématique de fond, peut-être beaucoup plus préoccupante que cela. C'est que, et là encore, j'y reviens, pour qu'une négociation entre partenaires sociaux soit équilibrée, il faut que l'État intervienne pour rééquilibrer le rapport de force. Or, l'État intervient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, pour le déséquilibrer. C'est-à-dire, il met toujours...
Ça, c'est quoi concrètement? Parce que là, on ne voit pas très bien, parce que vous êtes en train de vous plaindre, d'habitude, de l'intervention, de, notamment sur les négociations...
Eh bien, je m'en plains, parce qu'il intervient pour le déséquilibrer. Tant qu'à intervenir, il faut qu'il intervienne pour avoir un rapport de force équilibré. En fait, dans une négociation, quand on va négocier avec un représentant des employeurs, que ce soit au niveau interpro ou dans l'entreprise, oui. S'il y a un échec à la négociation et que l'État, pour l'interpro, dit bah, s'il n'y a pas d'accord, moi je reprendrai la position patronale, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la négociation. Donc il faut qu'il y ait un intérêt à la négociation, c'est-à-dire qu'il faut que chacun camps ait quelque chose à perdre au fait qu'il n'y a pas d'accord. C'est ça la problématique.
Là, c'est la question, je veux dire. Là, c'est quoi? Là, ça bute sur quoi? Ça bute sur le CDI senior, sur le parcours professionnel? Ça bute sur quoi?
Ben, il faut qu'il y ait un partage, en fait. Chacun va avec
ses
positions.
Vous avez fait 10 propositions. Est-ce qu'il y en a qui ont été retenues par le patronat?
Mais absolument aucune. Absolument aucune. Enfin, il faut regarder les choses. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Donc, les gens vont devoir travailler 2 ans de plus. Ça s'échelonne et ça va venir assez rapidement. Nous, ce qu'on a demandé, on n'est pas les seuls, finalement, on l'a contingenté dans une liste. Il faut avoir en tête, s'agissant de l'emploi des seniors, qu'il faut travailler au maintien dans l'emploi des seniors. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, Gabriel Attal, il parle d'embaucher des seniors et de créer des CDI ad hoc pour ça. Mais ça, c'est pas le problème, en fait. C'est pas le sujet. C'est un problème. Mais c'est pas le sujet. Le sujet est de maintenir les seniors dans l'emploi jusqu'à 64 ans, voire au-delà. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des dispositions dans cet accord qui font que, qu'on soit salarié d'une petite PME dans le Var ou qu'on soit agent de maîtrise à Renault Le Mans, par exemple, il faut qu'on puisse accéder à des dispositions qui feront qu'on pourra se projeter sur la fin de carrière, tout simplement. Oui. Parce qu'on ne travaille pas de la même manière et dans les mêmes conditions quand on a 24 ans que comme on a 60 ans. Ça, c'est simple, tout le monde peut le comprendre. Et nous, on dit que c'est l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt bien compris de l'entreprise, de travailler à mettre en place des dispositifs qui vont sécuriser cette fin de parcours. Finalement, travailler sans la crainte d'avoir des conditions de travail insupportables, d'avoir un niveau de revenu qui baisse trop vite, etc.
Et de ce point de vue-là, vous trouvez que le MEDEF ne répond pas à vos attentes?
Il ne répond pas, il n'a pas suffisamment d'ambition dans la négociation.
Vous en déduisez quoi? C'est que le patronat ne veut pas avoir de seniors, en fait? Qu'est-ce que vous en déduisez, vous, de d'où vous parlez, hein, François Omeril?
Bah, écoutez, ça c'est quand même les faits aujourd'hui. Les gens qui se retrouvent avec ce taux d'emploi, on a en France ce taux d'emploi au-delà de, je ne sais plus quel âge, 60 ans je crois, de 40%. Ouais. Donc c'est quand même quasiment un des plus mauvais niveaux. C'est les gens qui sont à Pôle emploi aujourd'hui qui attendent.
Les entreprises ne veulent pas
liquider.
Changer.
Bah, les entreprises, elles ont pris, les grandes entreprises, ouais. Attention, il faut le préciser, elles ont pris l'habitude de se séparer des personnes à partir d'un certain âge, okay. Et elles font une erreur économique. Parce que ces gens ont de la valeur. Mais simplement, il faut travailler. Eh bien, il faut réfléchir, tout simplement. Il faut faire un effort.
Donc,
c'est
là,
complexe.
Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui va... Donc, vous êtes prêts à aller au clash, là?
Vous savez, le clash...
Non,
le clash.
On dans les négociations, je suis d'accord avec vous. On le sait. Nous aussi, on le sait bien, que tout d'un coup, on a l'impression que c'est complètement bloqué. Et puis, ça se décoince. OK. Mais est-ce que vous êtes prêts, dans ce que vous connaissez, ce que vous dit votre portable...
Ben, il ne m'a rien dit de plus.
Est-ce que vous êtes prêts à aller au clash?
Bah, le problème qui se pose, il faut le dire, c'est que le gouvernement joue double jeu, une fois de plus. Je vais le critiquer encore, excusez-moi. Mais il met la négociation sous contrainte d'un certain nombre d'éléments. Notamment, il a fait rentrer la question de l'assurance chômage par rapport à la négociation. Ce qui, à mon avis, est un peu décalé, mais peu importe. Et donc, nous négocions de façon très loyale avec un certain nombre de revendications et de propositions, par ailleurs très argumentées, qui sont des propositions de valeur économique, et au final on a un accord qui est inconsistant. Ce ne sont que des processus. Je prends un exemple très très simple. Exemple, nous on demande le fait que la retraite progressive soit opposable. Eh bien, ça n'est pas dans l'accord. Or, pourtant, c'est une évidence. Il faut que la retraite progressive soit opposable. Cette capacité qu'il y a pour quelqu'un à prendre sa retraite de façon échelonnée et qui fait qu'il va aller en biseau, finalement, jusqu'à 64, 65, 66 ans. Eh bien, le patronat nous dit, mais non, pas question. Ce sera à l'employeur de décider. Ben, ça n'est pas possible, en fait. Il faut qu'il y ait des concessions réciproques pour qu'on puisse avancer.
Mais le gouvernement était plutôt assez favorable à cette retraite progressive, non?
Pour le coup, il l'était. Oui. Pour le coup, il l'était. Donc, si vous voulez, moi j'arrive plus à comprendre.
Ça veut dire qu'il faudra une nouvelle lettre de cadrage, vous pensez?
Ça commence à faire beaucoup.
Oui, mais c'est d'accord, mais...
Ça commence à faire beaucoup. C'est ça. On vit une époque aussi où finalement ce déficit de confiance qu'il y a entre les différents acteurs de la République sociale, ce déficit de confiance fait que, en permanence, on passe sur des recadrages. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner.
Vous confirmez, c'est difficile à suivre.
On devrait fonctionner sur des rôles bien partagés. C'est l'aide de cadrage qui font 3 pages. Bientôt, ce sera un document de 30 pages des lettres de cadrage. En gros, dans la lettre de cadrage, il y aura marqué l'accord. L'accord, il sera marqué, il n'y aura plus qu'à signer.
Oui, parce que moi, ce que je ne comprends pas dans cette négociation que vous faites entre partenaires sociaux, c'est presque la dernière négociation, the last chance, comme on dit, parce que vous avez tous, le couteau sous la gorge, dans le sens où l'État a clairement dit, on va tout reprendre, on va tout récupérer. Donc, vous devriez quand même avoir une pression telle que vous réussissiez à vous mettre d'accord sur quelque chose.
Mais je vous avoue que là, j'ai un petit point d'incompréhension pour ma part. J'ai du mal à interpréter l'attitude du camp patronal, on va dire du MEDEF principalement. J'ai du mal à interpréter cette attitude qui finalement est un peu après moi le déluge. Il me semble qu'on partage suffisamment d'objectifs. Vous citiez tout à l'heure Patrick Martin. Moi, je veux dire que...
Parce qu'on avait l'impression que la ligne était un peu différente avec Geoffroy Roux-de-Bézieux. Alors, le climat était différent.
Le climat était différent. Mais si vous voulez, moi, j'ai aucun problème avec Patrick Martin. Au contraire, je pense qu'on est tout à fait capable de travailler ensemble et de partager des objectifs communs sur la nécessité...
Là, vous n'avez pas pris votre téléphone, vous ne l'avez pas appelé en disant « Mais attends, qu'est-ce qui se passe ?» Allez-y, appelez-le.
Écoutez, je lui ai peut-être envoyé des messages. J'attends peut-être qu'il me rappelle. Il est probable qu'on le fera aussi.
Il vous a pas rappelé.
Chacun a son agenda. J'ai le mien. Et puis, on en reparlera. Mais souvent, des négociations interpro se terminent comme ça. Je ne sais pas si ce sera le cas. Parce qu'on est quand même très, très loin de la possibilité de trouver un accord dans lequel... Vous dire quelque chose. Ouais. Un truc très simple. Moi, ma ligne, c'est que quand je suis signataire d'un accord, je le défends. Ça se fait pas de dire j'ai signé parce que j'étais contraint de le faire pour pouvoir opposer au gouvernement une attitude, etc. Ça vaut rien du tout. C'est bullshit. On signe l'accord, on le défend.
Okay.
Parce qu'on dit cet accord, il est bon. Voilà, tout simplement.
Ouais. Là, on va rediscuter de l'assurance chômage. On est d'accord, il y aura peut-être une nouvelle lettre de cadence. La réforme, elle est là, elle a été annoncée par le Premier ministre. Après, il y a des différentes, il y a 3 possibilités. On en parle à longueur de plateau sur qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de réforme. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous préconisez. Mais est-ce que vous allez vous asseoir autour de la table ou alors est-ce que vous allez pratiquer la politique de la chaise vide?
Alors, 2 choses. D'abord, moi, au nom de la CFE-CGC, je ne fais jamais la chaise vide. S'agissant de l'assurance chômage, j'étais même partisan, pour tout vous dire, avec mon organisation. À l'époque, c'était il y a 6 ans, pour que on négocie sur les conditions de l'assurance chômage avant la lettre de cadrage. Mmh. On aurait créé un précédent intéressant. Il se trouve que pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, ça n'a pas été possible. Mais ça aurait été un acte politique fort. Et je crois qu'à tout moment, on peut le faire. On a besoin de l'autorisation et du cadrage de personne, en fait, pour pouvoir négocier entre nous les conditions d'indemnisation des chômeurs et les conditions du retour à l'emploi.
Ouais.
Pour le coup, sur la lettre de cadrage qui va nous renvoyer aux dispositions qui ont été annoncées par Gabriel Attal, dans une façon de faire assez grossière, il faut bien le dire, parce qu'en gros, il nous dit, ils font bien ce qu'ils veulent, mais de toute façon, j'ai déjà décidé ce que je vais faire. Et au passage, qu'il a décidé de faire, ce sont des choses qui sont réfutées en termes d'efficacité par des gens qui sont spécialistes d'analyser justement les conditions du retour à l'emploi. Donc en fait, il s'est contredit lui-même, et il a contredit ce que disent les experts sur le sujet. Donc,
et notamment Marc Ferracci qui était là hier soir, c'est ça qui a encore un peu, qui complique un peu l'exercice puisqu'il est vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale.
Donc. J'avoue que c'est plutôt original, oui.
Ouais. Là, qu'est-ce qui peut se passer, là? Qu'est-ce qui peut se passer?
Il peut se passer 2 choses.
Est-ce que le 1er mai, il sera unitaire?
Ah, mais c'est une bonne question.
Merci d'avoir posé. Tiens, je vais appeler Sophie Binet et Maryse Léon, d'accord?
Eh bien, écoutez, oui, faites-le. C'est une question qui s'est posée et qui n'est pas tranchée entre nous. Il a été unitaire, vous le savez, l'année dernière, dans un contexte très particulier. Nous, à la CFE-CGC, on n'a pas l'habitude de défiler le 1er mai. Et là encore, moi, je suis porte-parole de l'organisation, donc je tiens la ligne. Pour que on puisse nous participer à un défilé unitaire, il faut un mot d'ordre et une raison particulière. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne défile pas pour défiler, il faut qu'il y ait un motif particulier, une raison, un conflit finalement. Donc il faudra analyser les situations dans lesquelles nous sommes à l'approche du 1er mai.
Si ça se tend, là vous dites on y va.
Écoutez, je ne peux pas vous le dire, c'est une décision collective, mais pour le coup, s'il y a un sujet, s'il y a matière, moi je dis pourquoi pas. Ouais. Il n'y a pas de raison de l'exclure a priori, c'est une question de contexte. Mais il faut analyser les choses de façon relativement sereine et pragmatique, le climat n'est pas bon. Là encore, j'y reviens, c'est la question de la confiance qui est posée. Ouais. Voilà, on ne peut pas être intelligent tout seul dans son coin, il faut qu'on partage. Une négociation doit être équilibrée. Chacun est porteur de sa vérité dans une négociation, chacun apporte des exigences, des propositions, on les partage et on aboutit à un accord. Voilà.
François-Henri, vous n'avez pas de nouveau là sur les négociations en cours. Elles peuvent durer jusqu'à quand ces négociations ?
Alors,
épuisement d'hommes hein, ou quoi ?
Alors, j'ai pas de nouveau.
Non. Donc ça veut dire que ça patine. Oui.
C'est happening votre émission.
Bah oui.
Non, j'ai pas de nouveau. Une négociation en général, ça finit tard dans la nuit. Mais ça finit tard dans la nuit quand il y a une forme d'engagement des délégations. Hein, je vous donne, j'allais dire les petits détails de ce qu'est une négociation interpro. Il y a un moment où les choses basculent dans une négociation où une délégation ou plusieurs vont dire j'approche la zone de signature. C'est très concret. C'est comme une négo commerciale. C'est pareil. On est proche de sortir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On négocie le détail pour que chacun puisse se déterminer et proposer à son organisation. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'on est une organisation démocratique dans laquelle on met en débat et au final, au vote, la signature d'un accord qu'on présente. Mais il faut prendre une position. Et donc, les deux processus sont en parallèle. C'est un peu subtil. Mais on ne peut pas non plus dire, bah, moi, je sais pas si je serai signataire. C'est à mon assemblée de décider. D'accord. C'est un peu facile quand même. Okay. Il faut pouvoir s'engager un peu dans le cours de la négociation. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que, au vu de ce qui est proposé, pour nous, ce n'est pas possible de s'engager à ce stade.
Ah ben voilà.
Donc on verra bien ce qu'il adviendra dans la nuit, peut-être demain, s'il y a prolongation.
François Omeril, toute dernière question sur un dossier qu'on suit ici pas à pas, dossier Atos. Si je vous pose la question, c'est que la CFE-CGC est devenue le premier syndicat chez Atos. Vous avez, j'imagine, suivi un peu tous les derniers développements. Ça s'est accéléré ce matin avec Bercy, comité de Bercy, qui dit qu'il va mettre 50 millions, attribuer vers le CIRI, puis surtout garder une option d'achat, si on peut dire, une sorte de golden share, sur les activités de supercalculateurs. Il y a eu l'arrivée d'un financier, Walter Butler, aux côtés pour venir épauler une autre solution qui était celle de David Layani. Quelle est la position de la CFE-CGC ?
Alors moi, je ne suis pas un expert du dossier, mais je vais vous donner la position, qui est une position d'ordre général. Vous l'avez gentiment rappelé, on est devenu numéro un chez Atos. Ce n'est pas la seule entreprise, grande entreprise, dans laquelle on est devenu numéro un cette année. La position, elle est simple. Les problèmes d'Atos sont des problèmes financiers, uniquement financiers. Ce ne sont pas des problèmes opérationnels, ce ne sont pas des problèmes de compétitivité, ce ne sont pas des problèmes de technologie, de leadership technologique. C'est une entreprise absolument magnifique. Et nous, ce qu'on dit, il faut réfléchir souveraineté. Et donc, il faut que l'État s'engage, pour le coup, j'en dirai pas plus à ce stade, mais il faut que l'entreprise reste unique. Il faut pas découper l'entreprise. Si on découpe l'entreprise, si on commence à la découper, ça finira comme Alstom avec General Electric. Ça finira par la disparition. Voilà ce que nous, on pronostique.
D'accord.
Après, c'est aux sections syndicales, en fonction de leur environnement et des problématiques d'interaction.
Mais on a compris votre position.
C'est à elles de se déterminer. Mais en tout cas, c'est très clair. On peut pas dire souveraineté et ne pas agir en proportion de cet objectif.
Merci de tous ces propos, François-Henri. On a compris que la situation, elle se tend, c'est même très compliqué, ça devient très compliqué sur cette négociation sur les emplois seniors. Et puis sur Atos, pas de démantèlement, en tous les cas, c'est votre position. Merci beaucoup d'avoir été
merci à vous.
Avec nous. On vous rend justement à toutes ces négociations. François-Henri, le président de la CFE-CGC, était notre invité. Tout de suite, Guillaume Paul, l'essentiel de l'écho.
Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay et toute l'info secteur par secteur. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
BFM Business, l'info éco.
18h30 sur BFM Business, on vient donc d'en parler longuement avec François Omeril. Les partenaires sociaux continuent de négocier ce soir pour essayer de trouver un accord sur le maintien des seniors dans l'emploi. La discussion a débuté hier matin à 9h au siège du MEDEF, elle se poursuit, on va y revenir bien sûr dans un instant. Le dossier Atos, les choses se précipitent ce matin. Le groupe a donc dévoilé son plan de refinancement qui prévoit de réduire de moitié la dette. Elle est de quasiment 5 milliards d'euros aujourd'hui. Le groupe cherche en parallèle aux alentours de 1,2 milliard d'euros d'argent frais. Puis l'État par ailleurs s'est confirmé, va prendre ce qu'on appelle une action de préférence sur Bull SA qui est aujourd'hui une partie de la filiale Big Data. et cybersécurité. On en reparle aussi, bien sûr, dans un instant. Bruxelles qui accélère contre la Chine. On vous racontait avant le week-end qu'une enquête anti-subvention avait été ouverte contre les géants chinois du photovoltaïque. Et bien aujourd'hui, c'est une enquête contre les gros fabricants d'éoliennes qui a été dégainée par la Commission européenne. Et puis, il y a eu des perquisitions aujourd'hui sur plusieurs sites des groupes chimiques Arkema et Daikin. Perquisitions dans le cadre d'une enquête sur de possibles contaminations au fameux PFAS dont on vous parlait largement la semaine dernière. 19h, 18h32, on va dans un instant avec nos experts. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, ils sont là, nos experts. Première partie jusqu'à 19h. Mathieu Pechberti est avec nous. Mathieu, bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Le Chypre est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bruno Coquet est avec nous. Bonsoir. Bruno, docteur associé, chercheur, docteur... comment on dit dans leur vieux, je ne l'ai plus.
Docteur chercheur à l'OFCE.
Docteur en économie,
chercheur associé à l'OFCE. J'en mettais les choses en place, évidemment. Et puis Edwige Chevrillon qui nous accompagne.
Chevrillon et Edwige.
Oui, pardon, excusez-moi, j'en mets les choses en place. Dites-moi, François Omeril, là, il est. On va l'écouter quand même ce qu'il vous disait sur l'assurance chômage, sur l'emploi des seniors. Ben, on écoute et puis on en parle. Allez, écoutez, François Omeril lui-même.
On va plutôt vers un échec. Alors évidemment, il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute, mais la partie patronale a fait une suspension de séance de 4h30 pour revenir finalement avec des modifications de forme. Et on est sur cette problématique quasiment depuis le début. C'est-à-dire que c'est une négociation qui reste très déséquilibrée, dans laquelle finalement on observe que la tension, le cadre, il a été déterminé par la réforme des retraites, donc 2 ans de travail supplémentaire, et au final une négociation pour essayer d'aménager les conditions dans lesquelles je parle de la partie travail des seniors, oui. Qui par ailleurs a aussi des conséquences sur les autres parties. On essaye de travailler, de réfléchir aux moyens d'aménager ces 2 années supplémentaires, voire au-delà, c'est-à-dire les années précédentes. Et finalement, pour les salariés, on ne voit rien venir.
Voilà, ils y sont depuis hier matin. On y est encore ce soir à 18h. Ouais, il a l'air de considérer qu'on va dans le mur, là, très clairement.
Bah, c'est-à-dire qu'il nous expliquait qu'il ne comprenait pas très bien la position du patronat, en disant que suspension de séance, comme il vient de le dire, de 4h30. Et puis là, il a en ce moment, il y a un moment qui va être très important, c'est de savoir s'ils vont s'engager pour la suite des négociations, parce qu'il nous dit c'est comme ça, que c'est des pratiques toujours assez lourdes, assez, voire historiques, très anciennes. Mais bref, donc on s'engage vers une négociation, ça veut dire que là... les gens essayent de dire on va trouver un accord. Et que là, pour l'instant, ils ne sont pas encore là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même très négatif en disant globalement, on va vers un échec. Et ce qu'il ne comprend pas, en tous les cas, c'est la position de la CFE-CGC, de François Omeril, son président, et la position du MEDEF. Il dit, ils ont bougé sur rien. Et donc là, il dit, nous, on ne comprend pas, parce qu'on sait que l'enjeu est assez lourd derrière, parce qu'il y a le gouvernement qui veut récupérer des cagnottes, qui veut reprendre la main sur l'assurance chômage. Donc, on est dans une situation difficile, et visiblement, les syndicats ont l'air un tout petit peu étonnés par la position très dure du patronat.
C'est comprendre. D'ailleurs, vous lui avez posé la question, qui a intérêt dans le mur, fondamentalement, dans cette histoire? On ne voit pas qui a intérêt. Bruno, comment est-ce qu'on va sortir de cette histoire pour vous
J'ai écouté François Omeril avant. Moi, ce qui me frappe, c'est que la moitié de son intervention, c'est sur l'équilibre institutionnel. C'est pas sur le fond de la négociation. Et donc, où il dit, voilà, il y a un déséquilibre, l'État ne cherche pas à rétablir l'équilibre, tout ça. Après, moi, ça, si j'étais le patronat, j'aurais plutôt confiance dans le fait que si ça n'aboutit pas, il y a un certain nombre de choses quand même qui vont aboutir. En plus, le gouvernement reculera probablement sur les impôts de production, puisque bon, il cherche des économies. Donc on voit bien qu'il est dans une position de négociation favorable et que, quelque part, il n'a aucune raison de se mettre la pression. En revanche, il a quand même plutôt...
Il n'a pas pour autant intérêt à ce que tout capote non plus.
Non, pas du tout. C'est ce que j'allais dire. Il a plutôt intérêt quand même à se mettre d'accord avec les organisations syndicales,
comme ça a été le cas sur l'assurance chômage. Sinon, il joue le jeu du gouvernement.
C'est ça, parce que
comme le gouvernement fait, quelque part veut...
Mais ça lui est pas si défavorable que ça.
Et non, le point... Il faut voir que les organisations syndicales et patronales se sont mis d'accord sur l'assurance chômage. Donc, c'était quand même pas neutre, tout en acceptant, d'ailleurs, la plupart de ce qu'avait fait le gouvernement. Donc du coup,
oui,
on
mais
voit
l'État
bien
n'a
que...
pas signé. Hein. L'État n'a pas entériné.
Non, non mais oui, mais c'est... l'État n'a pas entériné. Non. Mais en tout cas, dans l'équilibre entre les deux, il y a quand même un intérêt à agir. Sur la situation des seniors, on est quand même dans quelque chose de différent. Il faut voir que la plupart des entreprises se comportent bien avec les seniors. Elles gardent les seniors en emploi et le
jusqu'à 60 ans.
Non, mais même après, si on regarde
on
une majorité
plus faible, hein,
non, une majorité d'entreprises ne licencient pas les seniors et les conservent. Après, il y a une minorité d'entreprises. Il se trouve que c'est plutôt des grandes qui jouent un peu avec les règles. Et mais ces aspects sont absents du document de négociation. Par exemple, on sait très bien que il y a des pré-retraites d'entreprises qui s'appuient sur l'assurance chômage, qui est le problème qui crée ce pic de sortie autour de 60 ans. Hein. Et ça doit être résolu. Il n'y a pas un mot dans l'accord. Par ailleurs, dans l'accord aujourd'hui...
Ben non, parce que justement, c'est ce que demandaient les syndicats.
Sur les pré-retraites, j'ai pas compris que ça faisait partie du menu. Après, ce qu'il y a dans l'accord pour le moment, enfin, ce que j'ai vu en début d'après-midi, ce qu'il y a, c'est le paragraphe sur l'assurance chômage. Il y avait deux options possibles. Soit on se cale immédiatement sur les nouvelles bornes d'âge de la réforme de retraite, soit on monte progressivement comme les bornes d'âge. Pour le moment, le chiffre qui est dedans, c'est on se cale directement sur la cible. Mais c'est le tout petit, ça fait près une demi-page dans les 44 pages qu'il y a pour le moment sur la table.
Et ça, c'est la position justement, c'est la position du MEDEF, du patronat.
Oui, bien sûr.
Voilà. Que je veux... Non, mais donc c'est là où ils ont mis dans le document, le nouveau document, si vous voulez, il y a mis des choses qui représentent vraiment des lignes rouges ou des chiffons rouges, si vous voulez, pour les syndicats. Ouais, c'est là où on est dans une logique. Pourquoi ils font ça?
Alors il y a le CDI senior qui est plus un chiffon rouge. Enfin, il y a plus de chiffons.
On appelle plus d'ailleurs
rouge.
CDI senior. Ouais. On a changé de dénomination. Emmanuel, comment est-ce qu'on va sortir de cette histoire entre des syndicats qui parlent de retraite progressive et puis le patronat qui brandit toujours ce CDI senior qui a changé de dénomination au passage?
Je crois qu'il y a plusieurs degrés de priorité et d'importance en fait. Effectivement, Bruno l'a dit. Le premier sujet, parce que c'est quand même le sujet clé quasiment pour l'économie française, c'est faire travailler davantage les seniors. Si vous remettez la France sur les standards européens, vous résolvez énormément de problèmes.
150 milliards d'euros en tout cas, voilà, c'est le chiffre que rappelait
quasiment 2 millions d'emplois. C'est quasiment 2 millions d'emplois en plus. Et on a déjà vu qu'en augmentant le taux d'emploi des seniors, ça augmentait le taux d'emploi global. Et donc, il n'y avait pas de crainte finalement de substitution en disant, bah oui, mais ces seniors en emploi, ils vont prendre l'emploi de quelqu'un d'autre. Le deuxième point, par ordre d'importance, c'est effectivement, est-ce qu'il va y avoir un accord ou pas? Et là, pour toutes les raisons politiques qui ont été évoquées, bah, c'est important parce que est-ce que l'État reprend la main ou pas? Et puis, honnêtement, les points sur lesquels ils discutent dans l'accord, il y a quand même énormément de choses qui sont anecdotiques, qui sont imperceptibles même pour l'œil du DRH d'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement abstraites.
Ce que vous êtes en train de nous dire en filigrane, c'est quand bien même on aurait un accord ce soir, ça serait pas le grand soir, quoi.
Non, parce qu'effectivement, je crois qu'il y a, il y a encore énormément de changements culturels à faire dans les entreprises. Quand on a eu cette culture, effectivement, de la suppression d'emplois par le départ, finalement, des seniors, c'était quand même tout le temps eux qui étaient visés. Bruno a cité les grands groupes, mais les grands groupes, systématiquement, quand ils décidaient de supprimer des emplois, ils faisaient partir des gens en retraite anticipée. Oui. Et donc, si vous voulez, cette logique qui a consisté à toujours s'en servir comme variable d'ajustement, ça met beaucoup de temps à changer. C'est en train de changer. Les pénuries de main-d'œuvre.
Je ne sais pas si c'est en train de changer.
Si, bien sûr que si. Ça change.
Ça bouge.
Ça change même très vite. Ça change même très vite. Quand vous êtes confronté aux pénuries d'emploi, quand vous êtes confronté à cette difficulté
les entreprises sont confrontées aux pénuries d'emploi.
On a tous les ans des chiffres qui progressent. C'est-à-dire, quand vous voyez le taux d'emploi des seniors et même les plus de 60 ans,
ça s'est amélioré entre 55 et 60 ans.
Qui progresse. Et la réforme des retraites va faire effectivement sans doute que ça va encore augmenter. Donc moi je pense que l'enjeu c'est vraiment, si on veut y voir un enjeu, c'est cet enjeu politique, accord ou pas, mais je suis d'accord avec ce que dit Bruno, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le MEDEF il est dans un fauteuil, il est en position de force et que il est gagnant le MEDEF. S'il n'y a pas d'accord,
Quoi, l'assurance chômage,
le gouvernement
va
prendre la main et qui fera des choses qui sont plutôt assez conformes à ce que souhaite le MEDEF. Et s'il y a un accord, il est toujours dans le jeu avec les partenaires sociaux. Donc je pense que
gagnant-gagnant.
Le,
quoi, voilà.
le, le MEDEF, il joue le rapport.
Pas du tout cette lecture, ça. Mais oui, je pense pas. Je vois pas en quoi il est gagnant-gagnant. Il est gagnant, si les partenaires sociaux se mettent d'accord, donc ok. Mais si jamais il y a un clash, ils se mettent tous en position de faiblesse par rapport au gouvernement.
Et non, parce qu'il dirige la politique que va mettre en place Emmanuel Macron, c'est une politique qui sera plutôt le balancier ira plutôt vers le MEDEF que vers les syndicats de salariés.
Oui, enfin si.
Bien évidemment.
Ouais,
et puis il y aura pas de clash. S'il y a une négociation, si ça échoue, je pense que tout le monde fera attention à ne pas incriminer l'autre côté de la table.
Bon, ouais. Eh bien, écoutez, on verra.
À suivre.
Oui, oui.
On verra.
On ne peut dire que ça à ce stade, effectivement, puisque la discussion a repris en fin d'après-midi. On est peut-être parti encore pour quelques heures, nombreuses heures de discussion. C'est longtemps qu'on n'avait pas comme ça une négociation entre partenaires sociaux jusqu'au bout de la nuit, effectivement. C'était tradition à l'époque. Ça s'est un peu perdu, mais de temps en temps, il y en a quand même un petit peu. Parlons d'Atos. Point du jour. Alors, les choses se décantent un petit peu. Mathieu Pechberthier est avec nous. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir.
Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Un accord avait été trouvé, plan de refinancement, tout du moins annoncé par le groupe, qui veut réduire de moitié sa dette, qui est de 5 Beaucoup, milliards hein. d'euros, quasiment. Ouais. Qui cherche de l'argent frais. Et alors, l'autre subtilité, c'est que l'État, ça se confirme, va se mêler de la partie pour sécuriser autant que possible les actifs sensible, Mathieu, tout ce qui est cyber, les supercalculateurs aussi, évidemment.
Oui, vous savez que ça fait maintenant plusieurs mois que l'État dit qu'il surveille effectivement les activités sensibles d'Atos. Je rappelle que dedans, il y a des contrats de cybersécurité avec le ministère des Armées, des contrats dédiés aux supercalculateurs d'Atos, en tout cas qui sont utilisés notamment par des institutions publiques importantes comme le commissaire à l'énergie atomique pour la dissuasion nucléaire, des contrats qui sont liés au contrôle commande, qu'on appelle le contrôle commande, en tout cas au pilotage de certaines centrales nucléaires d'EDF.
Bref. Parce que la France sait faire en Europe, faut le rappeler. Hein.
Oui, exactement. Et donc, c'est effectivement stratégique pour le gouvernement. Et donc, le gouvernement avait dit qu'il ferait en sorte qu'elle soit protégée. On savait pas bien comment il allait se débrouiller, sachant que le gouvernement ne veut pas, en tout cas, veut à tout prix éviter de mettre un euro dans ses activités. Et donc là, ce matin, ce qu'il annonçait, c'est un outil assez habituel qui s'appelle l'action de préférence. Donc en fait, le gouvernement va acheter une seule action de cette société qui détient tous ces contrats, qui est l'ancien Bull.
L'ancien Bull.
Ceux qui ont connu, en tout cas, qui avait été racheté par Atos il y a 10 ans maintenant. Tout
par Thierry Breton.
Par Thierry Breton, absolument. une bonne acquisition de Thierry Breton.
Qui avait privatisé Bull, absolument.
Ah oui, absolument. Oui. À la fin des années 80, absolument. Et donc, avec cette action de préférence, l'État va pouvoir avoir des droits spécifiques. Un droit spécifique, c'est-à-dire, il aura un représentant au conseil d'administration de la filiale française de Bull, qui aura un droit de regard, qui va pouvoir avoir un œil sur les comptes et qui aura, alors pour le moment il n'en a pas, mais qui va pouvoir négocier les droits de veto sûrement sur les décisions stratégiques pour éviter qu'il y ait des débordements. Et l'ultime, en tout cas, décision que l'État a mise en place, qu'il n'a pas réalisée, c'est un droit de préemption sur cette activité. C'est-à-dire que si, par malheur, du point de vue de l'État, il y avait un actionnaire non désirable ou non désiré qui montait au capital d'Atos, l'État peut forcer la main d'Atos et récupérer cette activité, la racheter évidemment, pas gratuitement. Enfin, tout ça est à discuter, j'ai pas les détails des accords, mais l'idée c'est effectivement de préempter et de pouvoir finalement renationaliser une partie de cette activité d'ambule.
Mais il faut quand même qu'un groupe reprenne ses activités ultra-sensibles.
Ah bah c'est toute la question, mais voilà. Comme l'a si bien dit
Alors pour le moment,
Mathieu.
Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette décision de l'État, avec cette action de préférence pour gérer finalement à la fois à distance et avoir un œil sur ses activités, c'est qu'en fait, cette activité dite BDS, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, la cyber et les supercalculateurs vont rester en fait dans Atos. Parce que les candidats qui pouvaient s'y intéresser, Airbus y a renoncé à deux reprises, Thales ne veut plus en entendre parler, et Dassault Aviation, à un moment donné, je pense qu'ils feront un effort, notamment pour un petit bout qui concerne le Rafale, et donc c'est important pour eux, mais ils ne rachèteront pas toute cette activité. Et donc finalement, on est en train de se faire à l'idée que cette activité sensible restera dans Atos, avec les repreneurs,
Qui est assez nouveau, du reste.
Mais que l'État aura toujours une sorte de... c'est comme le fil rouge pendant la guerre, sur ces activités pour les contrôler à distance. Voilà.
C'est ça qui est le plus nouveau, je trouve, dans le dossier, à part tout ce que vient de détailler Mathieu, sur l'étendue des dettes, le rôle des créanciers, etc. Mais avant, on parlait que de découpage. Vous avez BDS, l'infogérance, etc. On a le sentiment que la petite musique, elle a changé et qu'on est plutôt maintenant dans la reprise intégrale d'Atos, quitte à, évidemment, en fonction de la couleur du repreneur, de savoir si l'État fait jouer cette action dont on vient de parler, Mathieu. Ça, c'est assez nouveau parce que ça change déjà le périmètre, ça change peut-être les moyens. On sait que David Layani s'est fait épauler par Walter Butler. On en parlait hier. Il y a peut-être toujours Kretinsky ou pas. A priori, il n'est plus. Enfin, moi, je dis, ça fait longtemps qu'il n'y est plus. Mais on ne sait jamais. Et donc, peut-être que pour David Layani de se faire épauler par Walter Butler, qui sait faire la restructuration de l'entreprise.
Ça a été salué par les marchés.
C'est ce qu'il a fait. Ça a été salué par les marchés, on en a parlé. C'est peut-être là, lui, il a sans doute envie de reprendre l'ensemble d'Atos. Et là, ça change la donne. Et en plus, ça corrobore un peu ce que nous disait aussi François Amril, dans la CFE-CGC, sachant que la CFE-CGC est devenue le premier syndicat chez Atos.
On est sur des activités ultra-sensibles qu'on ne peut pas recaser dans un groupe à part entière seul, parce qu'apparemment, ça offre très très peu de synergie, donc il faut...
Tout le monde a un peu essayé, et puis d'ailleurs, Atos préfère les garder en interne, parce que c'est des activités qui sont, pas toutes, mais qui globalement dégagent des marges.
Du business,
Et donc du coup, si vous gardez cette activité, ça vous fait un peu plus des marges pour supporter un peu de dette, donc ça fait moins mal.
Bruno Coquet.
Soit il y a des synergies, soit il n'y en a pas, effectivement, et donc du coup, on peut penser qu'il y en a. Layani, c'est ce qu'il dit, c'est ce que dit François Omeril. Un certain nombre d'acteurs racontent ça. Après ça, François Omeril disait qu'il n'y a pas de difficulté opérationnelle. Moi, j'ai quand même entendu que l'infogérance nécessitait de la confiance des clients, parce que c'est un engagement sur
bien sûr, long terme.
Et donc, du coup, si le chiffre d'affaires baissait dans ce domaine, qui est un gros bout du chiffre d'affaires d'Atos, il y avait quand même un sujet de confiance qui nécessite d'être pris en main. Et donc, du coup, il faudrait quand même une solution assez rapidement.
Edwige.
Non, moi, je peux. Je pense que là, on a franchi une étape. Maintenant, on avance dans ce dossier. Et que maintenant, ça devrait déboucher peut-être quand même un peu plus rapidement. Il faut voir si les créanciers, quel va être le poids des créanciers dans le capital d'Atos.
Il y a 5
milliards. Quel rôle ils vont jouer ? 4 milliards 8.
Ouais, 4 milliards 8, dont les deux tiers arrivent à échéance à la fin de l'année 2025, ça. Donc c'est demain, C'est demain.
Oui, il faudra un accord d'ici le mois de juillet. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, quand même, sur l'activité d'Atos qui a été publiée ce matin, qu'on a peu regardé, mais quand même, elle est mauvaise. L'activité d'infogérance perd 6% en chiffre d'affaires.
Les clients sont partis.
Le groupe perd 2% globalement. Et le groupe écrit très clairement qu'il y a des renouvellements de contrats qui ne sont pas faits et qu'ils n'arrivent pas à avoir de nouveaux clients.
Mais c'est normal,
Oui, c'est normal, mais dans ces activités, vous faites des
comptes. Qui va signer ?
Non, mais je dis ça parce que c'est pas juste. Dans ces activités où les contrats sont pluriannuels, quand vous perdez un client, pour le rattraper ensuite, il va falloir attendre quand même un certain temps. On a beaucoup parlé de ça l'année dernière, lors de la restructuration de Casino, où là, les clients qui quittent le supermarché, ils reviennent plus rapidement. On n'est pas sur les mêmes business.
Bon, Emmanuel Le Chip, qui voue à ce dossier d'admiration sans feuille.
Non, je m'informe tous les soirs auprès de Mathieu.
Le champagne est au frais quand ce dossier sera terminé.
Bon. Non, mais il y a l'idée d'avoir bouclé tout ça pour cet été, le refinancement.
Tout à l'heure, je vous rappelle que Atos, c'est dans une procédure de conciliation, sous l'égide d'une administratrice judiciaire, Hélène Bourboulou. Et donc, c'est réglementé et ça va durer jusqu'au mois de juillet au plus tard.
Bien. À bon entendeur et à ceux qui sont intéressés.
On aura nos vacances après.
Voilà, exactement. Merci Mathieu Pechberti qui est passé nous donner les nouvelles du front sur ce dossier Atos. Il nous reste quelques minutes. Je voulais vous rappeler que l'État cherche de nouvelles économies. Vous savez que Fitch et Moody's vont se prononcer sur la dette française dans 10 jours. Demain, échéance très importante, Bruno Le Maire présente la nouvelle trajectoire budgétaire de la France. Vous savez, comment allons-nous aller ramener nos déficits publics sous les 3% du PIB en 2027? Il y croit toujours. Et alors ce matin, il y avait une réunion à Bercy avec les représentants des collectivités locales pour chercher des pistes d'économie. Écoutez André Léniel, vice-président, vous savez, de l'Association des maires de France, qui nous l'a dit, comme il l'a dit très clairement à Bercy, c'est pas la peine d'aller chercher des économies du côté des collectivités locales et des municipalités. Écoutez.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner. Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout. Vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards. Et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains... ils sont en grave difficulté. Donc, le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc, si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Vous voulez faire des collectivités locales des agents de la récession. C'est fort ce que dit André Laniel, là, quand même. Est-ce qu'il faudrait taper les collectivités locales?
C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'est pas rendu, parce que effectivement, le problème, c'est pas que d'un côté, elles dépensent trop et que ou de l'autre côté, elles ont plus de sous. C'est qu'elles dépensent n'importe comment. C'est-à-dire qu'en gros, on est quand même sur le niveau de service public qui, avec sans doute certains pans du secteur de la santé, effectivement, sont des secteurs sur lesquels on pourrait faire des économies considérables. Moi, je veux bien que les municipalités soient à Lens, mais à ce moment-là, où est-ce qu'elles trouvent l'argent pour payer les salaires des 60 000 fonctionnaires qui ont été embauchés l'an dernier?
Voilà, c'est-à-dire ce que j'allais dire.
On est vraiment là, on marche totalement sur la tête. C'est-à-dire que prétendre que dans les collectivités où on sait très bien que c'est là qu'on travaille le moins, que c'est là qu'il y a le plus d'absentéisme, que c'est là qu'il y a le plus, grosso modo, de fonctionnaires qui ça coule douce, c'est quand même.
Et là,
je caricature un peu, mais c'est là où il y a le plus aussi de doublons. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez 3, 4, 5 échelons de collectivités territoriales différentes à valider, là où ailleurs il en faut que 2 ou 3, c'est tous ces sureffectifs-là. Donc moi, je veux bien que les collectivités soient à l'os, mais enfin, il y a quand même là du souci à se faire sur les pistes d'économie et sur notre future trajectoire.
Ça, on verra demain.
Budgétaire. Il y a un très beau graphique que j'aurais pu vous montrer. Vous savez, c'est depuis 30 ans, ce graphique en U, comme ça, qui se décale tous les ans. Ça fait des vagues.
Ah bah vous l'amènerez demain, puisqu'on parlera demain
avec toutes ces trajectoires promises de déficit qui reviennent jamais.
C'est bien sur les effectifs qu'on les a un petit peu titillés aujourd'hui, justement.
Pas beaucoup, mais il y a de quoi, du reste, parce que c'est là où était. C'est l'essentiel de l'augmentation de la fonction publique et l'augmentation des dépenses publiques. Donc, de ce point de vue-là, c'est ça, Emmanuel a raison, même s'il caricature peut-être un tout petit peu. Mais il faut bien. Ce qu'on peut dire sur les collectivités locales, c'est que toutes les réformes qui ont été faites pour simplifier, ça rejoint là encore ce que disait Emmanuel, et bien en fait, ça a conduit à quoi? À empiler, à faire un millefeuille
de plus. La réforme Hollande, une catastrophe.
Une catastrophe, alors que c'est censé, au contraire, clarifier les rôles des uns et des autres, des départements, des régions, tout ça. L'intercommunalité, je ne sais pas si vous allez dans les villages, à la campagne, mais je veux dire, c'est l'enfer. C'est-à-dire que tout, rien n'a été supprimé, si ce n'est le service rendu, mais en revanche, tout a été empilé. Et donc, de ce point de vue-là, on est dans un schéma ubuesque. Et quelque part, ils ont raison. Et en même temps, c'est vrai qu'on leur a supprimé quand même beaucoup de revenus.
C'est vrai. Bruno, on en redira un mot tout à l'heure, mais allez-y, oui. Bruno, si vous voulez dire un mot sur.
Moi, dans le millefeuille, là, on a la tranche du bas, là, on a la feuille du bas, puisque c'est les communes. Il y a aussi les départements, les intercommunalités, les régions, les établissements publics comme le Grand Paris, qui font la moitié du déficit des collectivités locales cette année.
C'est vrai que ce n'est pas les communes qui font.
Île-de-France Mobilité. Et donc, du coup, en fait, je pense qu'il y a de l'hétérogénéité. En même temps, je pense qu'il y a des choses qui sont plutôt bien gérées, puis d'autres plutôt mal gérées. Mais de toute façon, ils vont passer à la casserole, hein, comme tout le monde. L'État va prendre tout ce qu'il peut pour combler son propre
déficit. Les taux se resserrent, Edwige, pour
conclure. Alors, on va voir, taux se resserre. Juste un point important. Il y a quand même eu un grand désaveu de Bruno Le Maire. Il faut quand même le souligner. On verra demain un peu comment la journée se passe. Ouais. Parce que lui, il aurait demandé, en tous les cas, c'est ce que révèlent nos confrères les Échos, mais enfin, ça n'a pas été démenti. Et ça corrobore un peu, et puis ça explique peut-être, ça éclaircit la stratégie politique de Bruno Le Maire. C'est qu'a priori, des membres du cabinet de Bruno Le Maire auraient essayé de convaincre des parlementaires de demander une loi de finances rectificative. Oui. Ce à quoi aussi bien Emmanuel Macron que Gabriel Attal
ont dit
non, non et encore non. Donc il a quand même essayé et il s'est repris un vent, si vous me permettez cette expression. Et là, c'est intéressant de savoir est-ce que ça affaiblit beaucoup Bruno Le Maire et pourquoi.
Voilà. On verra demain.
Ça dépendra de la trajectoire de croissance qui va se dessiner
tout au long de l'année. C'est pour ça.
Si les perspectives de croissance 2024 tiennent à peu près la route, effectivement, il n'y aura peut-être pas besoin d'un rectificatif. Mais, et les indicateurs sont plutôt pas mauvais pour le moment. Bon. Mais si jamais la croissance déçoit, on n'y échappera pas.
On verra demain le petit schéma de Bruno Le Maire, la nouvelle trajectoire, comme on dit. Mmh. C'est un nom assez barbare, j'ai oublié. Le Pistab. Pistab, ça s'appelle dans le jargon de Bercy. Un mec, votre petit schéma, puis on verra ce que ça donne.
Je vous amène ça.
C'est terminé, 18h58. Merci Emmanuel. À demain. Bruno Coquet revient dans un quart d'heure. Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
Alors ça ne sera pas sur le budget, ça sera sur la cyberattaque, l'IA,
les violations de données, puisque c'est la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, qui sera avec nous. Elle a un rôle clé. Certains disent qu'il faut qu'elle joue un rôle encore plus clé avec l'explosion de l'intelligence artificielle. Elle nous dira comment et puis comment éviter qu'on n'arrête pas de nous piquer nos données personnelles.
Et voilà, voilà. La patronne de la CNIL
première fois demain.
18h10. Merci beaucoup. 18h59. On revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, un peu plus de 19h, on est de retour. Deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Dans l'actualité ce soir, cette discussion, cette négociation qui était censée être la dernière sur l'emploi des seniors entre les partenaires sociaux. Elle a débuté hier matin à 9h et au moment où je vous parle, 19h03, elle se poursuit toujours au siège du MEDEF. On va voir ça avec Caroline Morisseau dans un instant. On va reparler d'Atos jusqu'à 20h parce que le groupe, vous le savez, a annoncé ce matin son plan de refinancement et puis confirmation que l'État va se mêler de la partie pour sécuriser ce qu'on appelle les actifs hautement stratégiques. On verra ça avec Mathieu Pechberti, puis on parlera tous avec nos experts qui arrivent bien sûr dans un quart d'heure. Qui sera avec nous? Bruno Coquet va revenir, Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico sera là et Frédéric Boccara pour les économistes atterrés. Tout ça promet un débat haut en couleur. Soyez les bienvenus, donc on est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage. La gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Donc, ça n'est toujours pas réglé ce soir. Bonsoir Caroline Morisseau, les partenaires sociaux qu'on commençait à discuter hier matin au siège du MEDEF de l'emploi des seniors. Il y a eu des interruptions, il y a eu des pauses, mais ce soir, on y est toujours. Qu'est-ce qui bloque exactement, Caroline ?
Tout bloque, à peu près tout bloque en fait. Les syndicats dénoncent toujours un accord totalement déséquilibré avec plus de droits pour les employeurs et rien pour les salariés. En fait, les organisations patronales campent sur une position très ferme. Elles refusent de lâcher quoi que ce soit. Elles s'obstinent toujours à vouloir mettre en place, vous savez, leur fameux CDI senior qui a été rebaptisé, qui ne sera qu'à titre expérimental pour 5 ans, mais qui repose toujours sur le même principe. C'est un contrat qui leur permettrait d'employer un demandeur d'emploi de plus de 60 ans, mais de s'en séparer une fois sa retraite à taux plein atteinte, qui est une ligne rouge pour les syndicats. Derrière autre sujet qui fâche les syndicats, le patronat exige qu'un salarié qui a fait une reconversion professionnelle soit dans l'obligation de démissionner de l'entreprise à l'issue de sa formation. Ça aussi, c'est un problème pour les syndicats. Et derrière, en face, les syndicats n'arrivent pas à obtenir de contrepartie, n'arrivent pas à obtenir quoi que ce soit. Il n'y a à ce stade pas une seule de leurs 10 propositions communes qui a été retenue dans l'accord. Du coup, le ton monte, évidemment. Les syndicats sont de plus en plus énervés. Certains commencent même à se demander si finalement le patronat veut vraiment aller au bout de cette négociation ou s'il n'est pas en train de refuser en fait, de ne pas assumer l'échec de cette négociation et qu'il ne pousse pas les syndicats à claquer la porte et à aller au clash. Là, on vient d'avoir une très longue interruption. Le patronat a un peu revu sa copie, vient de la transmettre au syndicat. Donc, on va voir si dans les heures à venir, la situation se débloque.
Ça peut encore durer quelques heures.
Ça peut encore durer jusqu'à tard dans la nuit.
Et bon, on suivra ça en tout cas ce soir, demain matin sur BFM Business. Merci beaucoup Caroline Morisseau avec nous ce soir dans Good Evening. Dans l'actualité ce soir, je vous disais, il y a le dossier Atos. Les choses se précipitent depuis 48 heures. Vous savez que le groupe a dévoilé donc ce matin son plan de refinancement qui prévoit de réduire de moitié la dette. Dette qui est aujourd'hui de près de 5 milliards d'euros. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
L'autre confirmation, c'est que l'État va bien intervenir pour essayer de sécuriser ce qu'on appelle les activités sensibles. C'est ça, Mathieu, finalement.
Oui, exactement. Vous savez, ces activités de cybersécurité et les supercalculateurs qui sont logés chez Atos, où il y a des contrats avec le ministère des Armées, également avec le commissariat à l'énergie atomique pour la dissuasion nucléaire, les commandes, par exemple, des centrales nucléaires. Bref, des activités, effectivement, très sensibles. Et l'État s'est octroyé, ou en tout cas négocié, mais s'est octroyé avec Atos, ce qu'on appelle une action de préférence dans cette filiale qui est toujours logée dans la société qui est toujours appelée Bull aujourd'hui, qui avait été rachetée il y a une dizaine d'années. Et cette action de préférence, c'est effectivement une seule petite action de cette société Bull, mais qui donne des droits spécifiques à l'État. L'État, on a déjà dans beaucoup de groupes de défense, comme Safran, comme Airbus, comme Thales, où il y a aussi des activités très sensibles. Et cette action de préférence va lui donner des droits spécifiques en matière de gouvernance, sur un représentant de l'État au sein de la filiale française de Bull, qui aura du coup accès à l'information de cette société, donc sur les contrats, pour préserver les contrats notamment avec les entités publiques et sur les activités sensibles. Et puis il y aura également des droits de vote, peut-être, en tout cas Atos dit qu'ils ne sont pas encore négociés, mais des droits de vote au sein de ce conseil pour l'État, qui donc aura un pied certain dans ses activités. Et l'État a même négocié avec Atos un droit de préemption sur cette activité, ce qui veut dire que si demain, pendant ou après la restructuration d'Atos, un nouvel actionnaire, on va dire dérangeant pour l'État, oui, prenait ne serait-ce que 10% du capital d'Atos, l'État peut lever cette option et donc racheter de force cette activité de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Donc c'est très important. Ce ne sont que des mesures mises en place, il n'y a rien de fait aujourd'hui. Oui. Mais en tout cas, l'État se laisse la possibilité de reprendre en main ses activités.
L'État qui monte au créneau, mais il avait prévenu il y a de ça quelques semaines qu'une solution
individuelle serait
trouvée. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure un petit peu avant 18h30. On prendra un peu plus de temps pour évoquer les nouvelles du front, bien sûr, sur ce dossier Atos qui nous tient en haleine. Et ça n'est pas fini, visiblement. Pendant ce temps, l'État continue ses consultations pour essayer de trouver de nouvelles économies. Ce matin, il y avait une grosse réunion à Bercy pour évoquer des pistes avec les élus locaux. Et les maires l'ont dit très clairement, c'est pas de leur côté qu'il faut chercher de l'argent. Écoutez, André Léniel, c'est le vice-président de l'Association des maires de France.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner. Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout. Vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards, et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains, ils sont en grave difficulté. Donc le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc, si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Voilà les mots très cash d'André Léniel, le vice-président de l'Association des maires de France aujourd'hui à Paris. Bruxelles accélère contre la Chine. On vous racontait avant le week-end qu'une enquête anti-subvention avait été ouverte contre les géants chinois du photovoltaïque. Bah, cette fois, c'est une enquête contre les gros fabricants chinois d'éoliennes qui a été dégainée donc ce mardi par la Commission européenne. En France, il y a eu des perquisitions aujourd'hui sur plusieurs sites des groupes chimiques Arkema et Daikin. Perquisitions dans le cadre d'une enquête sur de possibles contaminations au PFAS. Vous savez, ces polluants éternels dont on vous a beaucoup parlé la semaine dernière. Et puis en France, c'est un groupe dont beaucoup pensaient qu'après le Covid, il allait rechuter lourdement. Le Labo Biomérieux a présenté ce matin un plan stratégique à 5 ans très ambitieux. Le groupe n'a pas fait qu'engranger pendant le Covid, en fait. Il a vraiment préparé l'avenir. Hélène Cornet.
Biomérieux fait mentir tous ceux qui lui promettaient un retour sur Terre difficile. Le groupe se porte même mieux qu'avant la crise sanitaire, avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à 2019. Le Covid a développé de nouveaux réflexes. Les tests sont devenus une aide complémentaire, voire indispensable au diagnostic, que ce soit dans les maladies respiratoires ou les maladies infectieuses. Le laboratoire lyonnais développe également des tests pour les fièvres tropicales ou contre l'antibiorésistance. Mais le plus prometteur pour Biomérieux, c'est sa nouvelle technologie baptisée Spotfire, lancée l'été dernier. C'est un outil nomade qu'on peut installer dans les hôpitaux ou les cabinets de médecins pour détecter soi-même les virus en 15 minutes sans l'aide d'un laboratoire. En France, c'est très compliqué de l'installer pour des raisons réglementaires, mais le dispositif séduit à l'international. De quoi permettre au groupe de fixer pour la première fois une trajectoire financière sur plusieurs années.
Voilà les nouvelles ambitions de Biomérieux. Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. 19h11, on va sur les marchés. Étienne Braque, rebonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
On regarde la clôture à la Bourse de Paris. D'abord, on a chuté ce soir au CAC, sur le CAC 40, moins 0,86%, 8049 points. Et Wall Street, comment ça se passe?
Du rouge également, avec néanmoins une séance qui est sur une baisse un petit peu moins forte, avec un Dow Jones qui perd 0,4%, moins 0,3% pour le S&P 500, quand le Nasdaq est parfaitement stable, grâce notamment à Alphabet, la maison mère de Google, qui est sur des plus hauts historiques aujourd'hui, qui gagne 1,5%, avec une une nouvelle puce dédiée à l'intelligence artificielle qui a été fabriquée avec le britannique ARM, ARM. Donc suite à cela, vous avez cette valeur qui s'en sort très bien aujourd'hui, qui frôle les 2000 milliards de valorisation boursière et qui repasse même en quatrième capitalisation mondiale, juste devant Saudi Aramco et devant Amazon. C'est pour vous dire comment ça peut très vite aller en l'espace d'une séance. La tendance de fond, elle reste quand même tout de même attentiste aux États-Unis comme en Europe, avec bien sûr des chiffres d'inflation qui sont très attendus demain aux États-Unis. Jeudi, la BCE, Christine Lagarde, qui est attendue sur son calendrier de baisse d'auto. Et puis à partir de vendredi, ça va alimenter vos journaux, mon cher Guillaume. Ça y est, les résultats d'entreprise ont commencé à tomber. Résultats trimestriels, comme toujours, ça commence aux États-Unis un vendredi avec le secteur bancaire. Et puis ensuite, à partir de la semaine prochaine en Europe, avec notamment LVMH mardi prochain. Donc le marché qui a bien progressé après de nombreux records, notamment au mois de mars, fait une petite pause avant ses rendez-vous majeurs.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h12, nous revient avec nos experts dans un instant. Ils sont là jusqu'à 20h pour parler de plein de choses. Athos, deux nouvelles du front. Ça commence à se décanter, enfin on espère. Et puis ce dossier de l'assurance chômage et l'emploi des seniors, on y est depuis hier matin et au moment où on se parle, on continue de négocier au siège du MEDEF. Pour combien de temps? C'est toute la question. Tout ça jusqu'à 20h entre autres. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts, pour refaire l'actu. Bruno Coquet reste avec nous. Rebonsoir Bruno. Bonsoir. Docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Bonsoir Jean-Marc, éditorialiste Atlantico. Frédéric Bocara est avec nous. Frédéric, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir,
également, économiste.
Guillaume. Bonsoir messieurs.
Membre des économistes atterrés. Est-ce que vous avez une pensée pour les partenaires sociaux qui y sont depuis ce matin, négociations au siège du MEDEF sur l'emploi des seniors? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des négociations comme ça, vous savez, qui s'étirent la journée, la nuit, avec des rebondissements, des interruptions. Enfin, ils y sont toujours. Et au moment où on se parle, c'est pas réglé. Écoutez ce que disait François Omri, le patron de la CFE-CGC, qui était il y a une heure sur ce plateau, qui disait, là, clairement, on est parti pour aller dans le mur. Écoutez.
On va plutôt vers un échec. Alors évidemment, il faut toujours espérer jusqu'à la dernière minute, mais la partie patronale a fait une suspension de séance de 4h30 pour revenir finalement avec des modifications de forme. Et on est sur cette problématique quasiment depuis le début. C'est-à-dire que c'est une négociation qui reste très déséquilibrée, dans laquelle finalement on observe que la tension, le cadre, il a été déterminé par la réforme des retraites, donc 2 ans de travail supplémentaire, et au final une négociation pour essayer d'aménager les conditions dans lesquelles je parle de la partie travail des seniors, oui. Qui par ailleurs a aussi des conséquences sur les autres parties. On essaye de travailler, de réfléchir aux moyens d'aménager ces 2 années supplémentaires, voire au-delà, c'est-à-dire les années précédentes. Et finalement, pour les salariés, on voit rien venir.
C'est un sujet qui a réémergé à l'occasion de la réforme des retraites. Je vous pose la question, qui a intérêt à ce que ça aille dans le mur, cette histoire, très clairement? Jean-Marc,
pour l'instant, personne n'a intérêt à ce qu'on aille dans le mur. Peut-être les syndicats de salariés, mais encore, faudrait vérifier. Mais non, personne n'a intérêt de. Je trouve même que c'est assez intéressant ce que vous appelez un bras de fer. À mon avis, c'est une négociation entre des gens qui se connaissent très bien, donc ils vont pas se battre. On est dans une logique assurantielle. On a dégagé des excédents en fait, grâce à la réforme des retraites, et c'est bien. Et les partenaires sociaux ne sont pas d'accord sur le partage de ces excédents, c'est-à-dire sur le partage des bonus. Alors, où est-ce qu'on fait partager le bonus en diminution de charges et de cotisations? C'est ce que j'ai compris. Ou alors, est-ce qu'on utilise ce bonus en amélioration de la situation des départs et des retraités? Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est très bien, c'est que ce sont les partenaires sociaux qui s'en occupent. C'est le vrai contre-pouvoir en France.
Oui, mais vous voyez bien que ça n'avance pas.
Mais ils vont avancer.
On n'avance pas. C'était déjà la DER.
Alors, s'ils n'avancent pas, ceux qui vont perdre, c'est ceux qui aspirent à tout bloquer et donc à demander à l'État de gérer à sa place. Et si l'État gère, eh bien, j'ai l'impression qu'ils seront tous perdants parce que l'État va piquer le bonus qu'il a besoin d'argent.
Est-ce qu'on peut trouver une position intermédiaire entre les syndicats qui reparlent, et à juste titre, de retraite progressive et le patronat qui continue d'agiter la menace de perspective d'un... Il n'y a plus ça, c'est des seniors, mais c'était un petit peu de ça qu'il s'agit finalement. Frédéric, comment est-ce qu'on peut s'en sortir de
Comment
ça
dire? Je pense qu'il faut arrêter de penser uniquement à ces gros sous, mais penser au développement possible de l'économie.
C'est quand même une histoire de gros sous, là, malheureusement, qu'on le veuille ou non.
Oui, mais c'est peut-être ça le défaut. Il faut penser au développement de l'économie. Parce que, d'abord, on n'est plus dans un système assurantiel parce qu'on a transformé les cotisations sociales en un impôt.
Non, j'ai bien vu qu'on n'était pas dans la capitalisation.
Bruno l'explique très bien dans son blog, hein. Voilà. Bon. Que j'ai relu pour réviser. Mais il a raison. Pôle emploi veut en prendre une partie, en plus. Donc ça pose problème. On a besoin, si on regarde les choses de loin, de quoi on a besoin ? De développer la formation, les compétences et de la transmission. C'est ça l'enjeu, y compris sur le chômage et sur l'emploi. Et donc, les seniors, au lieu de leur dire on va vous tordre le bras, vous allez travailler 2 ans de plus et trouver des bouts de ficelle pour rafistoler, on pourrait au contraire bénéficier de toutes ces compétences, toute cette ressource humaine, toute cette richesse d'inventivité pour faire. Et là, ça pourrait être du gagnant-gagnant, mais avec un type de patronat qui cherche le développement réel et qui n'est pas sous la pression financière. C'est un peu ça le problème. Et si on ne voit pas ce basculement qu'il faut faire vers compétences, vers formation, eh ben on n'arrivera pas à avoir le nouveau monde. Et là, le problème, c'est que c'est l'ancien monde qui domine dans le patronat, oui, très fortement. Omril, je suis sûr, comme la CGT, il pousse des idées comme ça.
Oui.
Mais, et je pense qu'une partie du patronat serait pour. Moi,
Tout le monde a fait pléthore de propositions, là, pour le coup.
Non, mais ça, c'est vous qui décidez ça et qui a annoncé ça.
Non, je décide pas. Les enquêtes montrent que le grand problème, c'est la pénibilité d'une part, mais les compétences surtout.
Les pénuries de votre position universitaire. Mais quel argent il s'agit ? Il s'agit de l'argent du travail. C'est la création de valeur.
L'argent des travailleurs.
Des travailleurs et des entreprises.
Donc, les entreprises font partie des travailleurs.
C'est bien de le rappeler.
Pour le coup. Pardon, ces travailleurs font partie d'entreprises.
C'est pour ça qu'ils discutent d'ailleurs.
Bruno Coquet, est-ce qu'on trouve un sujet. La question que je vous posais, Bruno, c'est est-ce qu'on peut trouver un dénominateur commun aux attentes des uns et des autres? Et de quand bien même on trouverait un accord ce soir, est-ce que ça serait le grand soir? Est-ce que ça serait ce qu'on appelle un game changer sur le sujet de l'emploi des seniors en France? Ou est-ce que c'est culturel avant tout, finalement?
Non, ce ne sera pas le grand soir. Alors déjà, il faut observer que par rapport à de grandes négociations sociales qu'on a connues, personne ne claque de porte.
Non, voilà.
Du coup, ça veut dire qu'il y a quand même.
Attendez, vous entendez François Omril qui dit on n'est pas loin de.
C'est la nuit que les portes se claquent vers 2h du matin.
Ne pas avoir d'accord ne veut pas dire s'en aller avant la fin.
Oui.
Donc ça, c'est quand même dans le schéma, c'est un peu différent. Donc, après ça, il faut avoir en tête que dans la majorité des entreprises, les entreprises gardent leurs seniors.
Les petites et les moyennes.
Les petites, les gens qui ont des problèmes de compétences, enfin pour des tas de raisons, mais en tout cas, à chaque fois qu'on a reculé l'âge, les seniors sont restés, le taux d'emploi des seniors a augmenté parce que les entreprises les gardent. Bon, donc, après, il y a des problèmes de discrimination des seniors parce qu'ils sont surexposés au licenciement, aux ruptures de contrat de travail, on va dire, et une discrimination parce que à l'embauche. Et donc du coup, c'est ça que je pense essayer de dire François Omril, c'est-à-dire, il disait en gros, on essaye d'aménager l'allongement créé par le fait d'avoir repoussé
l'âge de départ. Alors,
oui. Et donc aménager, ça veut dire quoi ? C'est tous ces machins un peu flous qui ne ressemblent pas à un grand soir, c'est-à-dire aménager les entretiens tout au long de la vie professionnelle et fin de carrière, voir qu'est-ce que ça donne avec le compte épargne temps, voir comment on traite ceux qui posent problème, sachant que ceux qui posent problème, c'est principalement dans les grandes entreprises, où on a une survivance de pré-retraite d'entreprise, oui. Alors que l'État a été de les subventionner, donc ça c'est un problème, parce qu'elles ont les moyens de se débarrasser de leurs seniors, donc les bonnes pratiques elles sont plutôt à prendre dans cet univers-là, et donc du coup, ces mesures ne peuvent pas afficher quelque chose d'extraordinaire on va interdire de licencier les seniors, on va tous les embaucher,
donc
on va les payer.
On aura encore réussi à passer à côté.
Mais on pourrait regarder le modèle allemand, hein, parce que les Allemands sont beaucoup plus positifs que nous en maintenir les seniors au travail.
Le modèle allemand, faut peut-être.
Hein? Les Allemands et d'autres, le point c'est de savoir, c'est des gens expérimentés. Si on a besoin de compétences, on a quand même une masse de gens qui sont expérimentés et qui sont licenciés, et lorsqu'ils sont licenciés, qu'on ne les réembauche pas, et pas forcément qui sont démonétisés du point de vue des compétences numériques, je ne sais quoi. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, dans les chômeurs seniors. Et donc, du coup, on a quand même un problème qui est mentionné dans le projet d'accord pour le moment, qui est de changer les mentalités. Ce qu'on observe quand même, c'est que, alors ça paraît flou ça, mais dans tous les pays qui ont augmenté leur taux d'emploi des seniors significativement, ils ont fait énormément d'efforts là-dessus, que ce soit le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, etc. Ils ont tous fait énormément d'efforts là-dessus. Et l'Allemagne comme...
Mais regardez, il y a un gros problème de transmission de formation et transmission de compétences. Comme vous le dites, c'est pas parce qu'ils sont vieux qu'ils sont démonétisés. Loin de là, au contraire. Visitez Alstom. Alstom avec leur problème de manque de soudeurs. Et soudeurs à plusieurs. C'est pour les trains, c'est pour les cuves, c'est pour la chaudronnerie, tout ça. Et un soudeur, il faut 7 ans de formation initiale, puis 3 à 4 ans de compagnonnage. C'est 10 ans en réalité. Et ils disent, mais moi, j'aimerais pouvoir, comme fin de vie professionnelle, transmettre. Donc réouvrir des écoles, ouvrir un chantier de la formation professionnelle et de la transition vers une autre forme de travail pour les seniors, ça c'est pour être quelque chose de gagnant-gagnant. Mais j'insiste, il y a la pression financière de la rentabilité immédiate qui pose problème. On le verra pour Atos aussi. Les baisses de dépenses de formation, on en souffre.
Non, mais
il peut y avoir un accord.
Les plans de formation, il n'y a jamais eu autant
de dépenses de formation. Oui, mais elles baissent. Non, les dépenses de formation d'entreprise ont baissé, Bruno.
Il y a jamais mentalité de dépenses publiques aussi élevées dans la formation.
C'est pas un problème de fric,
ça a baissé en 5 ans. Mais les mentalités, ça cède avec des incitations.
Jean-Marc, il y a énormément d'argent.
Non, mais je veux dire, c'est un niveau. Il y a quand même. Je suis d'accord, il y a énormément d'argent. D'ailleurs, s'il faut en raboter, on va d'ailleurs, je pense, en raboter deux
sur la formation, mais c'est. Bien sûr. Mais c'est marché sur la tête.
Allez voir ce qui se passe dans les contrats d'alternance. Alternance alors.
Ben oui.
Il va falloir là. Et puis, c'est surtout la mentalité des entreprises. Pourquoi dans les moyennes et petites entreprises, on prolonge le travail des seniors le plus longtemps possible, alors que ce n'est pas le cas dans les grandes. Mais c'est parce que dans les grandes, la relation humaine est différente.
Bon, discussion non, qui se poursuit.
Il n'y a pas de ressources humaines.
Discussion,
pour quelqu'un d'autre
discussion
dans les
qui se poursuit.
On a quelqu'un en garde.
On les garde.
Il faut organiser la circulation des deux côtés. Il y a un double problème.
Discussion qui se poursuit au moment où nous parlons.
Famille.
Ça peut durer encore des heures, évidemment, ce genre de discussion. On connaît. De toute façon, on se parle de ces négociations entre partenaires sociaux. Ils y sont depuis hier matin 9h, mais ça peut encore durer quelques heures, évidemment. Puisque vous parliez d'Atos, je voulais avoir votre point de vue sur la façon dont les choses se décantent. Donc, plan de refinancement annoncé ce matin, l'objectif, réduire la dette. Près de 5 milliards d'euros aujourd'hui, on veut la baisser de 50%. On cherche 1,2 milliard en parallèle. Et puis, l'État qui vient à la rescousse, d'une certaine manière, des activités stratégiques. L'État va prendre une action de préférence chez Bull, l'ancien Bull, qui est une partie de la filiale BDS dont on a beaucoup parlé. Est-ce que l'État joue son rôle, là ? Est-ce que ça y est ?
Oui,
on est proche de voir l'État...
L'État intervient avec une mise qui est minimum en fait, mais avec des incidences derrière parce qu'ils ont pris des actions de garantie, des choses qui peuvent les obliger finalement à intervenir davantage.
Oui, mais il faut des acteurs, des investisseurs derrière, ne serait-ce que pour cette activité.
Mais il va falloir nécessairement des investisseurs derrière parce que
qui va y aller
parce que d'abord le capitalisme a perdu. Atos. Et il faut bien qu'ils perdent de temps en temps. Ils gagnent aussi, donc il faut bien qu'ils perdent. On va pas regretter que des gens qui ont fait des erreurs de stratégie perdent à peu près les deux tiers de leur mise. Parce que c'est la dévalorisation, elle est de cet ordre-là. C'est pas la seule affaire qu'on a connue en France au cours des trois derniers mois. Parce que si je fais le compte avec Orpea, où on a perdu 5 milliards, Casino, où les actionnaires ont perdu 5, et ici Atos, il y a...
Non, mais là, je vous parle des supercalculateurs, attention. Alors, on ne parle pas d'une baguette.
Le problème, c'est qu'on n'a pas réglé le plan stratégique.
Voilà.
Tant qu'on n'a pas réglé un plan stratégique de ce que peut faire Atos, est-ce qu'ils font continuer de faire de l'infogérance qui est cannibalisée tous les jours par Google et qui n'a pas, visiblement, s'ils ne s'adossent pas à une société de conseil en organisation, en forme, mais eux, ils sont déjà très équipés, va pas beaucoup à revivre. Les supercalculateurs dont on a besoin, c'est-à-dire c'est l'ancienne bulle, ça.
Oui, c'est ça.
C'est l'ancienne bulle dont on a besoin pour notamment l'intelligence artificielle et la cybersécurité.
Avec un savoir-faire que seule la France maîtrise.
Ni
Thales n'est intéressé.
Bon. Voilà.
Il y a toujours plus l'idée qu'on va garder le groupe Atos dans son intégralité, qu'il n'y aura pas de
dépeçage. Il y a un double problème. Il y a un problème de pression financière folle qu'il faut lever. J'en avais parlé ici, déjà alerté très tôt. Et l'autre fois, j'avais dit, attention, les banques sont folles, des prêts à 18 mois à 1 an, c'est pas possible. Par exemple, quand Atos a fait le système informatique du ministère des Finances, c'est 7 ans de dépenses, de pertes d'une certaine façon, qu'il faut assurer avec d'autres activités comme l'infogérance et tout. Et après, quand ça devient bénéficiaire, c'est autre chose. Donc il faut un mix d'activités et le découpage en deux n'avait pas de sens. C'est pour ça qu'Airbus en a pas voulu. Et je veux tout ou rien, mais un morceau, ça marche pas. Parce que c'est comme prendre un bras et puis c'est désorganisé. Mais il faut donc assainir. Il y a un problème de transparence. En octobre dernier, il y a eu un comité social économique, l'ex-comité d'entreprise, où le cabinet d'expertise qui appuie les salariés, Sextant, a fait une lettre en disant « On n'a pas pu avoir même les documents que légalement on doit avoir ». Et d'ailleurs, la boîte, j'ai appelé les syndicalistes, j'ai discuté avec eux. Ils ont repoussé la publication de leur compte qui devait être le 20 février au 20 mars, puis au 28 mars. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu pas transparent. Ils demandent à voir combien sont payés les avocats, combien sont payés les cabinets de conseil. Ils n'ont pas. Donc, il y a un problème.
C'est aussi ce qui a fait fuir certains investisseurs, bien certains sûr. Du privé qui ont pas
et donc, le fait que l'État vienne avec la BPI, ça peut être le début d'une prise de responsabilité. Mais il y a un problème de projet. Effectivement. Projet articulé, mais à nouveau, les compétences, les salariés, donc changer la gouvernance, entendre les salariés. Ils savent, depuis 2014, ils ont perdu 35% des effectifs en France. Les dépenses d'emploi se sont, de formation se sont effondrées.
Et les clients sont partis.
Les RH, moins 30%, alors qu'il faut de la RH fine pour développer les compétences. Donc il y a un problème de fond. Et le problème, comme le dit Guillaume, c'est que c'est pas seulement les capitalistes qui payent d'une certaine façon. Mais si on perd des compétences comme les supercalculateurs, comme le jumeau numérique, comme la possibilité de simuler les explosions nucléaires ou les transports, ça pose un problème.
Donc, vous avez besoin d'un industriel qui investisse pour faire vivre
les programmes. Il y a des projets possibles, le cloud européen, il y a vraiment des grands enjeux. Pas seul, non, il faut un projet d'ensemble. Non, pas de chef, il faut un projet d'ensemble.
Il faut un industriel.
Ensuite, on met en musique, mais il faut une partition commune.
Je suis incapable d'expliquer quelle est la stratégie d'Atos.
Il faut une partition commune.
Qui va remettre de l'argent et
sortir du court terme pour une partie.
Vous n'avez pas de solution. Vous avez du capital ou vous avez de la dette.
Non. Vous développez aussi.
Non, mais sauf que les gens qui ont mis de l'argent, apparemment, ils sont pour ne pas démanteler l'entreprise. Oui. C'est-à-dire, ils considèrent qu'il y a de la synergie, et y compris, j'imagine, avec OnePoint, l'entreprise de David Layani. Ce qu'a dit François Ombril tout à l'heure, le syndicat majoritaire d'Atos, il est sur la même ligne. Donc, déjà, là, on a un point, c'est que on maintiendrait l'entreprise dans son intégrité. Bon, première chose. Deuxième chose, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, la confiance, puisqu'il y a sur l'infogérance qui sont des contrats à long terme. Effectivement, si les clients qu'on perd, on ne les récupère pas tout de suite, ils sont partis à la concurrence. C'est difficile d'en récupérer de nouveau. Et visiblement, quand même, Atos en a perdu. Donc il y a urgence pour arrêter l'hémorragie. En plus, avec les mauvaises nouvelles qui étaient données, avec les nouvelles qui n'étaient pas données au CSE. Et donc, du coup, on voit bien que rétablir la confiance est urgent et que si la négociation peut avancer vite avec les banques, du coup, c'est une bonne chose. Par ailleurs, si l'actionnaire perd dans le système capitaliste, il est normal que l'actionnaire perde. Et là, Atos, je pense que c'est fait, ça peut encore se faire.
Mais il y a une ligne stratégique sur les compétences, quand même, Bruno.
C'est 4,8 milliards d'euros de dette.
C'est un point. On ne doute pas qu'il y a des compétences chez Atos. Non. Le point, c'est d'arriver aujourd'hui. On a un problème financier.
On est d'accord.
Avant d'être un problème opérationnel.
Il y a un double problème.
Et donc, du coup.
Il faut qu'on s'arrête.
Parce qu'il y a l'aventure américaine.
Dont l'aventure américaine fait partie, d'ailleurs. Oui. Et donc, du coup, il faut résorber ce problème financier. Après, l'opérationnel suivra.
Nous sommes d'accord, mais avoir comme but de développer les compétences. Parce que les ingénieurs eux-mêmes, ils disent que les salaires sont trop bas, on n'attire plus. Donc il y a un problème de choisir les compétences contre la finance.
Surtout, je pense qu'ils ont perdu leur stock option.
Les compétences contre la finance, ça devrait être ça, nouvelle société.
C'est pas les compétences qui vont vous apporter des clients
immédiatement. Allez, 19h32 sur BFM Business.
19h30. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, on est de retour avec nos experts. Jean-Marc Sylvestre est là, Bruno Coquet est là et Frédéric Bocara est là également. Alors, dans la série L'État cherche de nouvelles économies, vous savez que Fitch et Moody's parlent dans 10 jours sur la note de la France. Hein, c'est le 26 avril prochain. Et demain, il y a une échéance très importante puisque Bruno Le Maire va présenter, vous savez, la nouvelle trajectoire du gouvernement pour essayer de ramener les déficits sous la fameuse barre des 3% du PIB en 2027. Il y croit apparemment, Bruno Le Maire. Ça porte un nom un peu barbare, ce document qui va présenter demain s'appelle le PISTAB, c'est ça Dans le langage de Bercy, on appelle ça le PISTAB. Le programme de stabilité.
Oui. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'il va afficher à l'horizon du programme de stabilité en 2027 3%, c'est sûr.
Bien sûr.
Alors après, le problème, c'est comment
c'est
on y arrive.
C'est la trajectoire qui va. Voilà,
est-ce qu'on y arrive en faisant des efforts budgétaires ou est-ce qu'on y arrive en ayant des bonnes perspectives de croissance?
Alors, oui. Ou en trouvant les économies afférentes.
Oui, voilà, des efforts budgétaires.
Et alors, justement, sujet.
Il y a moins de dépenses par effort budgétaire.
Oui. Et alors, ce matin, écoutez, réunion à Bercy avec des représentants des collectivités locales pour trouver une nouvelle piste d'économie. Écoutez, André Léniel, c'est baron du Parti Socialiste, vice-président de l'Association des maires de France, qui a mis tout le monde d'accord d'entrée de jeu. C'est pas la peine d'aller chercher de l'argent du côté des collectivités locales. Écoutez.
Le gouvernement nous dit, vous êtes riche, on va vous ponctionner.
Et dans le même temps, l'INSEE dit, pas du tout, vous avez un manque de financement à hauteur de quasiment 10 milliards, et dont une grande part sur les communes et sur les départements. Depuis 10 ans, ce sont 70 milliards d'euros qui nous ont été ponctionnés par l'État. Et aujourd'hui, pardon de l'expression, nous sommes à l'os. On n'a plus de gras. Et même pour certains, ils sont en grave difficulté. Donc le seul moyen, ça sera de baisser l'autofinancement et donc l'investissement. Et donc si l'État fait ça, il fera des collectivités territoriales des agents de la récession au lieu de se servir de nous pour être au contraire des tremplins pour un nouveau développement de notre pays.
Voilà, je peux refaire le sketch d'Emmanuel Le Chip qui me disait c'est du côté des collectivités locales qu'il y a des économies à faire, il y a des doublons, il y en a qui se la coulent douce, blablabla, c'est là où on travaille le moins, enfin il nous a fait tout un laïus. Vous pensez que là il y a des économies, des gisements d'économies à aller chercher du côté des collectivités locales?
Ah bah je pense que c'est le premier des gisements d'économies.
Ah bon, bah d'accord.
D'aller chercher dans les collectivités locales, c'est-à-dire la superposition des différentes strates administratives, les municipalités, les départements, les régions, les associations de communes, enfin bon.
Donc la réforme Hollande, tout ça,
Évidemment. Quelle est l'administration qui a fait le plus de création d'emplois dans un contexte qui était de stabilité au niveau des fonctionnaires? Sont les collectivités locales.
On leur a transféré la moitié des kilomètres de route.
Combien d'emplois nouveaux? 60 000 l'année dernière, je crois. 60 000, c'est important. Parce que quand vous employez un emploi,
Le Covid a fait émerger de nouveaux besoins de proximité.
Non,
de nouveaux besoins.
Je crois que là, on est franchement au cœur d'un problème qui va nous occuper pendant les semaines qui viennent. Et vraisemblablement, Bruno Le Maire va être au centre de cette question. On a deux stratégies budgétaires qui s'opposent et qui vont se transformer en conflit politique. On a une stratégie qui est portée par Bruno Le Maire, le livre qu'il a écrit, bien sûr, mais ses interventions continuelles qu'il a faites pendant les semaines qui ont suivi la publication de son livre, à savoir que nous avons en France un problème de dépenses, et notamment de dépenses de fonctionnement, ce qui explique le déficit que nous avons et qui explique l'endettement. Si l'on veut régler notre problème d'endettement, il faut régler notre problème de déficit, et pour régler notre problème de déficit, il faut raser, raboter, éliminer un certain nombre de dépenses, et notamment de dépenses sociales, puisqu'elles représentent la moitié des dépenses de fonctionnement.
Sur les collectivités locales.
Et vous avez, sur les collectivités locales, ça en fait partie. Donc, notre ami, là, il a pris le devant et il a prévenu que bon. Mais, pardonnez-moi, c'est que face à cette stratégie qui considère que la faute est aux dépenses, vous avez une autre stratégie qui s'était pas exprimée jusqu'à maintenant, mais qui vient de s'exprimer par la bouche du président de la République. On n'a pas de problème de dépenses, on a un problème de recettes. On a un problème de recettes et donc de croissance. Et donc, c'est la croissance qui réglera notre problème. C'est ça la nature du conflit et la nature du
situation. J'ai l'impression depuis quelques temps, on raisonne plus à travers les dépenses qu'avec l'idée d'aller chercher de la croissance avec les dons. On a l'impression que la croissance avec les dons, on l'a un peu perdu de vue, ça, quand même.
C'est terminé. Alors moi, je crois à la comptabilité, donc j'attends avec impatience la loi de règlement qui va permettre de voir si on n'a pas eu de problème de dépenses. Et moi, je suis persuadé qu'on a des problèmes de dépenses qui se chiffrent. On a quelques paquets de 5 à 10 milliards qui se sont déplacés dans le courant de l'année. Et je pense que ça, c'est un vrai problème de fond.
Oui, mais tout le monde s'y oppose.
Non, mais le point, c'est ça, avoir
tout
une stratégie. D'accord, tout le monde. Mais si on dit oui à tout le monde, on résoudra rien. Les collectivités locales, je pense qu'ils crient avant d'avoir mal. C'est sûr qu'il y a un gisement d'économie dans les. Alors, il y a plein de couches de collectivités locales, comme on dit, le mille-cheval territorial. Il y a même François Rebsamen qui demande de repartager la Bourgogne-Franche-Comté en Bourgogne et Franche-Comté. Donc, du coup, on va en ajouter. Mais le point, c'est que chacune a ses problèmes, et notamment Île-de-France Mobilité, Grand Paris, qui explique 50% du déficit des collectivités territoriales cette année. Donc,
Frédéric Bocara.
Oui.
Est-ce que le cri avant d'avoir mal, les collectivités
locales? Non, elles ont eu très mal. D'abord, il y a eu des transferts de compétences qu'on a omis. Les routes, la moitié des kilomètres de routes nationales sur 40 000, il y en a 20 000 qui ont été transférés aux collectivités locales. Ça transférait des agents, c'est pas des créations nettes, mais ça apparaît comme des créations. Il y a eu le Covid.
où les collectivités, les communes, elles ont été en première ligne, vraiment en première ligne. La pauvreté qui a monté dans beaucoup de communes, moi qui habite dans des villes, une ville de la région parisienne qui est pauvre, on le voit. Il y a ce qui s'est passé sur l'enseignement. Quand vous regardez par exemple les dépenses d'enseignement primaire, la dépense intérieure d'éducation d'enseignement primaire, si elle ne baisse pas, c'est parce que les communes mettent les ATSEM, c'est-à-dire financent les aides scolaires, etc. Donc en fait les communes, parce qu'elles sont proches des gens, donc elles sont proches de l'exigence des gens, et donc elles dépensent pour ça, parce qu'il y a des besoins énormes. Je ne vous dis pas, il y a un aspect désordonné, mais c'est les besoins du tissu social qu'on sous-estime. Regardez, par exemple, il va y avoir, en Ile-de-France, 40% des médecins ont plus de 60 ans. Donc il va y avoir des départs à la retraite. Là aussi, les collectivités vont mettre au pot. Donc il y a un problème d'ensemble qui finalement aboutit aux collectivités locales. Donc s'il y a un problème d'organisation, il est aussi là. Il y a la vie des gens. Il y a eu la Covid. Bon. Alors, bien sûr, on pourrait parler de nouveaux financements. Moi, j'ai écrit des articles pour, effectivement, une nouvelle taxe sur le capital financier pour les collectivités locales, bien sûr. Mais ça ne règle pas les problèmes immédiats. Et les problèmes immédiats, on ne les règle pas en baissant les dépenses. En baissant les dépenses, on se retrouve comme dans les années 30. En dépensant un peu n'importe comment, on pose des problèmes. En baissant les dépenses, on se retrouve comme des années 30. La déflation du tristement célèbre Laval, ou la déflation Brüning en Allemagne en 31. Donc, il faut des avances. Comment on organise le système bancaire, le pôle public français, la Caisse des dépôts, et tout le pôle qui est censé soutenir les collectivités, pour qu'elles ne soient pas étranglées par les emprunts et que les avances soient correctement faites? Donc, comment on mobilise pas, non, dans toute l'Europe les collectivités?
On ne peut pas parler des dépenses comme ça. Les dépenses ne sont pas un gros paquet indistinct. Quand on a des problèmes tels qu'on les a, il faut les prendre une par une, et regarder les
Bruno, on va les prendre.
Quelle
on va les prendre
saison.
On va les prendre une par une.
On ne peut pas faire un gros paquet enveloppe, en disant il n'y a pas assez de dépenses, il y en a trop, etc.
Dans une enveloppe qu'on regarde tout autrement qu'en 1930 avec de la déflation, et dans les enveloppes, on s'autorise comme en 1944 une augmentation, une expansion sociale.
Qu'est-ce qu'il faut? Là, on n'est pas dans la déflation.
Vous n'allez pas dire dégraisser le mammouth.
Non, mais on parle de
dégraisser le mammouth des collectivités locales.
La façon dont on pense, c'est en termes de déflation.
Jean-Marc Sylvestre.
Non, mais vous avez raison. Il faut évidemment regarder les dépenses secteur par secteur, niche par niche, et vous allez vous apercevoir d'ailleurs que dans les niches il y a des chiens qui protègent
leurs. Ah bah oui, Molinier Verdier,
elle a aboyé là. Donc, vous avez eu depuis deux mois un débat qui a enflammé la classe politique et un peu les médias, et surtout l'opinion publique, puisqu'à chaque fois qu'on interrogeait un homme politique, quel que soit son courant, il était opposé à toute de réduction de dépenses, quelle qu'elle soit. Tous les exemples que Bruno Le Maire a sortis, c'était des exemples ponctuels. Il s'est fait ramasser. Donc, il faut quand même arriver à ce constat, à cette conviction, c'est que nous sommes le pays aujourd'hui en Europe qui avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé globalement.
Mais c'est un
le plus
calcul,
élevé globalement.
Ça.
Alors vous me direz, ça n'a pas d'importance.
Les autres aussi.
Nous avons de calculer la retraite autrement et on est en dessous des Allemands.
Oui, mais le jour où on a demandé à calculer la retraite autrement, c'est-à-dire à passer
calculer
à la capitalisation,
vous n'étiez pas du tout.
On ne passe pas sous les Allemands comme ça.
On est en dessous des Allemands.
Bon, non.
Si.
Bon, écoutez.
Puis bon, en Allemagne, il y a 3% de chômage, donc.
N'empêche que vous avez un total de dépenses publiques, et là, il faut bien raisonner en macroéconomie, qui était un des plus élevés en Europe aujourd'hui. Donc, ce n'est pas possible. On ne peut pas se plaindre d'un côté et dire, ah, mais regardez, il y a un endettement colossal, et puis continuer de distribuer de l'argent à tous ceux qui en demandent. Ce n'est pas possible.
Il faut développer l'économie, c'est ce qu'on dit. Il y a un problème de croissance.
Mais il y a un problème...
C'est ce que dit le président de la République.
Qui aujourd'hui résonne en termes de politique, il s'aperçoit bien que l'opinion publique est très énervée par toutes ces perspectives d'austérité, entre guillemets. Il dit non, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de croissance.
De répartition des dépenses. Comme il est aux manettes, il est obligé de tenir compte. Mais en réalité, on n'a pas un projet pour les dépenses. C'est là où je veux vous rejoindre, effectivement. On fait des dépenses au coup par coup.
Si, c'est du salaire.
Mais
du Doliprane.
Si par exemple je fais 100 000 pré-recrutements d'infirmières, c'est des dépenses de fonctionnement parce qu'on paye des gens en formation, mais c'est une sorte d'investissement parce que ça permet de développer demain.
Mais on n'a pas
fait 100 000 instits.
Mais on n'a pas fait ça.
Mais c'est pas ça.
Mais c'est ça.
On a le plus gros taux de dépenses avec des services publics.
Mais c'est ça le chèque carburant.
Mais c'est pas du chèque carburant dont on a besoin, c'est des prêts
de massifs. Pardonnez-moi.
Allez.
Nous avons des services publics qui fonctionnent parmi les plus mal.
Je faisais référence aux agences de notation. Je disais Fitch et Moody's se prononcent dans 10 jours, vendredi 26 avril.
C'est pas ça. Le critère, ça va être le comportement du marché financier.
Le marché ne bouge pas.
Vont appliquer la prime de risque.
Quand on a annoncé le 21 mars que les déficits seraient plus élevés que prévu, ça n'a pas bougé sur le taux français.
Ça n'a pas
bougé.
Il a
même reculé. Il a même légèrement reculé.
Ça bouge sur le spread de taux. Ça ne prévient pas.
Le spread franco-allemand, là, par contre, là, le spread s'est un petit peu écarté.
Oui, mais vous êtes en train de dire qu'il faut sortir les dettes des marchés financiers et les mettre dans la BCE, mais ça, je suis d'accord.
Le truc, c'est que c'est brutal.
Les intérêts, on l'a écrit depuis le début.
Le jour où le marché s'énerve, il n'a pas prévenu, après-demain, je vais m'énerver, je commence à m'énerver. Non, il s'énerve.
Il tape très fort comme il a fait en Grèce, et du coup, la BCE intervient au dernier moment.
Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce dysfonctionnement technique, vous avez raison qu'il y a un problème technique, etc., débouche aujourd'hui sur un vrai problème politique au sein même de la majorité et au sein même du gouvernement d'Emmanuel Macron.
Vous êtes en train de dire que l'utilisation de l'argent c'est politique, je suis tout à fait d'accord.
Bien, quelques minutes avant vos avis pour parler de ce sujet, alors hautement inflammable aussi, vous savez qu'on est à 3 mois à peine des Jeux Olympiques et donc il y a ce sujet serpent de mer qui est remonté à la surface aujourd'hui. Faut-il limiter le droit de grève dans les transports sur certaines périodes ? Et c'est le sénateur UDI Hervé Marseille qui présentait une proposition de loi en ce sens aujourd'hui. En gros, il dit... Il faut sanctuariser 30 jours par an. Et pas n'importe lesquels, évidemment. Écoutez Hervé Marseille ce matin.
Il y a un détournement du droit de grève. Personne ne remet en cause le droit de grève. Là, il y a détournement du droit de grève. On fait grève avec une poignée d'individus qui sont sur des boucles WhatsApp, qui s'appellent coordination, comité, et qui sont
dépassent les syndicats, en
fait. Voilà, qui sont très catégoriels. On dit les contrôleurs, les aiguilleurs. D'habitude, notamment à la SNCF, quand il y avait une grève, c'était pour l'ensemble des gens qui travaillent à la SNCF. C'était pour des revendications légitimes, soit de salaire, de primes, de conditions de travail. Là, on est sur du catégoriel et on commence par une grève.
J'ai le droit de dire, vous avez rigolé à gorge déployée, Frédéric, en écoutant le sénateur UDI Hervé Marseille, là, ou pas ?
Oui, je croyais que c'était Tartuffe qui parlait. Parce que
vous il dit qu'il n'y a pas détournement du droit de grève. Il dit qu'il n'y a pas détournement du droit de grève.
Non, il n'y a pas détournement. Il dit c'est des revendications légitimes. Il y a quelques années, quand les gens de la SNCF étaient en grève, il disait que ce n'était pas des revendications légitimes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu Tartuffe. Deuxièmement, il dit non, on n'attaque pas le droit de grève. Moi, j'avais envie de dire si on l'attaque, mais 30 jours. C'est-à-dire que si on dit aux gens, vous ne pouvez pas vous défendre pendant 30 jours, ça peut être terrible.
Alors, c'est 30 jours avec une limite de 7 jours d'affilée. Oui, mais... Et ça ne concerne évidemment qu'en cible les vacances scolaires, jours fériés, événements majeurs, suivez mon regard.
Vous me permettez juste une image et puis un mot et après je vous laisserai la parole, messieurs. Mais c'est comme si on disait, il y a un poulailler, les poules, on va laisser rentrer le renard, mais juste un jour par semaine. Voilà, le renard, il va bouffer toutes les poules. Et la deuxième chose, c'est effectivement, il y a un enjeu sur les Jeux Olympiques. Les transports, par exemple, ils sont saturés en Ile-de-France, saturés. Et c'est à cause de deux problèmes. Un problème d'aménagement du territoire, où on ne dialogue pas avec les entreprises sur l'aménagement du territoire.
Et un problème de manque de personnel.
Et un problème de manque, de personnel et de formation et de qualification. Et donc, si on ne règle pas ces problèmes-là, on va avoir ça sans cesse.
Bruno Coquet.
Moi, je crois que c'est. Enfin, ce qu'on essaye d'imiter, c'est le modèle italien.
Proposition de loi adoptée au Sénat, j'ai envie de le préciser. Oui. Ça a peu de chance de. Alors, je dis ça a peu de chance de passer à l'Assemblée, quoi que vous entendez dans la majorité des députés issus là qui disent ah, pourquoi pas, on peut quand même regarder ça.
Non, mais on essaye d'imiter. Les Italiens ont décidé ça il y a longtemps. Oui. Bon, l'Italie n'est pas un pays antisocial.
L'Italie, c'est quoi 60 jours.
Mélanie, elle est pas.
60 jours en Italie. 60 jours en Italie. Voilà.
On doit pouvoir y arriver. Et en plus, on est, le point, c'est qu'on est dans un domaine de secteur public en plus. Hein. C'est même pas. Là, il s'agit. Tout à l'heure, on parlait des négociations entre le patronat et les organisations syndicales dans le secteur privé, pour le coup. Là, on est dans le secteur public. Donc, normalement, bon, l'État devrait pouvoir mettre bon ordre là-dedans. Bon, je ne crois pas qu'on va attenter à la Constitution ni à la démocratie si on imite le modèle italien, moi.
On suspend la Constitution 30 jours, quoi. C'est ça que ça
non,
veut
mais
dire.
Là,
suspend le droit de grève 30 jours.
Je veux dire, on ne peut pas mettre dans l'angoisse tout le monde, là, à chaque départ en vacances, en permanence, et puis créer un bazar pas possible. Juste comme il a raison sur un point, c'est quand même, on voit bien que maintenant c'est des revendications catégorielles qui passent à côté des syndicats qui plus est. Il y a quand même un énorme problème.
Et je précise, les gens maltraitent les gens dans les bois. Donc si on les traite autrement, ce sera
c'est le même sujet.
Jean-Marc Sylvestre.
Non, mais je crois qu'on est en train d'entrer dans un débat que la France adore, que les Français adorent, qui vont agiter. Bon, alors si on met entre parenthèses l'histoire des Jeux Olympiques, où on pourrait très bien réquisitionner, enfin faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Je crois que le problème, c'est qu'il n'y a de grève que dans les services publics, il n'y a de grève que dans les monopoles. Grève principalement que dans les monopoles. Et pour qu'il y ait moins de grève dans les monopoles, il faut introduire de la concurrence dans ces monopoles, et peut-être regarder quelles sont les protections dont bénéficient les salariés de ces monopoles.
Il y a plein de grèves dans les petites boîtes pour les salaires, et notamment ces deux dernières années.
Si ça marche.
Donc c'est pas vrai qu'il y a des grèves que dans les services publics, c'est pas vrai. Simplement, ça se voit plus.
Écoutez, s'il y avait, dans des secteurs qui sont en concurrence, il y a quand même moins de problèmes.
Il y a les raffineries, qu'est-ce qu'on a eu encore? Bon, de temps en temps, il y a les éboueurs à Marseille.
Et d'ailleurs, quand il y a des grèves chez les bus, c'est parce que c'est des privatisations de bus aussi, donc c'est du privé.
Je rappelle que dans la proposition de loi initiale, on devait inclure le secteur aérien, que ça a été écarté parce que vous avez deux syndicats, un syndicat d'hôtesses et stewards et un syndicat de personnel au sol, qui appelaient à la grève justement les 15 et 16 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine, deux jours, pour protester justement contre le fait que le secteur aérien serait associé à cette proposition de loi.
Et quand Lufthansa est en grève,
si on dit aux gens, vous pouvez vous défendre, sauf les jours où ça sert à quelque chose de vous défendre. Ça va pas. Oui, alors, c'est qu'il y a quelque chose à prendre autrement.
Les jours
où on est interdit de défendre pourquoi et quoi et pour qui.
Encore, dans un pays démocratique en Europe où ce problème ne se pose pas de cette manière-là. Donc,
Mélanie au pouvoir, c'est une crypto-fasciste. Donc, si t'es là, Italie, c'est une petite erreur.
Ça a été négocié avant. Non, je suis désolé.
Ça a été négocié avant.
Ça fait partie de la montée du fascisme en Italie.
Non, je crois pas.
Ah, si.
Mais non, ça a été négocié avec les syndicats.
Elle n'était pas née, enfin.
Et sur les seuls jours. Sur les seuls jours concernés, ça ne concernera que les heures de pointe. Hein. Voilà, je précise aussi, voilà, un garde-fou.
Mais non, mais tu vois, c'est n'importe quoi.
Bon, enfin, en tout cas,
c'est effectivement pour ajouter le débat. Là, Jean-Marc Sylvestre a raison.
Cette proposition de loi a été adoptée tout à l'heure au Sénat. Elle a a priori peu de chance. Le gouvernement a dit non de passer du côté de l'Assemblée, même si vous entendez quand même certains députés de la majorité au sein de la gauche, évidemment, mais certains de la majorité qui disent « Ah, pourquoi pas ?» Maud Bréjon, par exemple, qui dit
ça. Mais ce qui n'empêche pas que les gens souffrent dans les services publics et dans les transports. Mais et donc, c'est ça, là. Mais le débat, il devrait être celui-là. Atténuer la souffrance dans les transports.
Le débat, il devrait être le dialogue social au sein de l'entreprise.
Atténuer la souffrance dans les transports, dont le dialogue social est un élément.
Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs, vos humeurs du jour, coup de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes. C'est la règle non écrite, mais elle est ainsi exprimée. Bah, Frédéric, tiens, puisque vous aviez la main, est-ce que vous voulez commencer? Allez, 30 secondes, Frédéric.
Alors, s'il y a la caméra qui peut zoomer dessus.
Allons-y, on est dessus.
Voilà, mon coup de gueule, c'est sur le coût du capital. Les prélèvements du capital sur les entreprises, en proportion de la valeur ajoutée, ils ont considérablement augmenté. Alors, il y a un pic durant la crise financière, ça redescend un peu, mais ça reste considérable, alors que les cotisations sociales, elles sont stables en part de la valeur ajoutée, elles baissent même sur les entreprises non financières de 1970 à aujourd'hui. Donc alors, de quoi faut se préoccuper? Les prélèvements du capital ou les cotisations sociales? Moi, ma réponse, c'est que quand même, il y a une vraie question de société. Ça ne veut pas dire que les réponses sont simples, mais là, il y a un vrai enjeu sur le coût du capital qui tend tout le corps social.
Démonstration, je suis rappelé. À quand le grand soir, finalement?
C'est ça la question. Non, c'est pas un grand soir. C'est un processus long de débats et de réponses.
Voilà pour le coup de gueule de Frédéric Bocara. Ce soir, Bruno, non, qui commence? Allez, Jean-Marc, allez.
Ça va pas vous surprendre, donc bon, c'est un coup de cœur.
Ouais.
Pour Bruno Le Maire.
Oh.
Parce que moi,
je l'ai pas vu venir.
Je trouve particulièrement cocasse et injuste. Il est ministre de l'économie depuis 7 ans.
Oui.
Pendant presque 6 ans, on l'a salué, on l'a félicité, on l'a béni de pouvoir trouver sur les marchés financiers internationaux tellement d'argent pour le quoi qu'il en coûte, pour satisfaire un certain nombre de revendications. Et depuis un an que la conjoncture s'est retournée, eh bien, il va être considéré comme le principal responsable, pour ne pas dire coupable, de la dette et du déficit.
Il est en campagne.
Il n'est que directeur financier, et comme tous les directeurs financiers dans les grandes organisations, il répond aux stratégies qui sont définies en général par le conseil d'administration, c'est-à-dire le gouvernement et le président.
Coup de gueule.
Cocasse quand même, c'est la BCE, c'est pas Bruno Le Maire.
maire qui a trouvé l'argent du quoi qu'il en coûte, c'est la Banque Centrale Européenne.
Allez, voilà,
il faut un nouveau quoi qu'il en coûte pour les services publics.
Bruno Le Maire, de Jean-Marc Sylvestre ce soir. Bruno Coquet, c'est à vous, 30 secondes.
Oui, je vais laisser parler Jean-Marc, parce que moi c'est le contraire. En fait,
ah, c'est un coup de gueule.
Le chef qui est le président de la République a un motif de licenciement du directeur financier, et le directeur financier a lui des motifs de démissionner. Pour le moment, l'un et l'autre ne bougent pas, donc c'est qu'ils ont quand même un intérêt commun. Cela dit, moi je pense qu'on ne peut pas dire à la fois, parce que Bruno Le Maire était complice du peuple français, en l'occurrence, en disant, ben oui, c'est moi qui fais tout. Et donc, du coup, après, il a eu une difficulté à dire que c'est pas lui
qui est responsable. Il a prévenu, quand même. Il a prévenu. Hein. Il a fait un livre pour prévenir.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une fiction ou...
Oui, mais il est en campagne. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais il est en campagne.
Alors, peut-être qu'il est en campagne.
Il y a des postes à Bruxelles. Il y a des postes à Bruxelles.
Bien sûr.
Voilà, il y a un haut représentant. La France ne l'a jamais eu.
Eh oui. Bien, c'est terminé pour ce soir. Merci, messieurs, d'être venus. Frédéric Bocara, économiste, membre des Économistes Atterrés. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste Atlantico. Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Merci messieurs, à très vite, avec plaisir pour nouvelles aventures. 19h56, dans un instant 20h, Tech & Co, François Sorel. On se retrouve demain 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.